With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Et si nous partions à l'aventure sur le porte-bagages de Perrine Fage? Allez, accrochez-vous, c'est parti. Bonjour, bonjour, c'est Bertrand, bienvenue dans Kilomètre 42, le podcast dans lequel nous parlons de course à pied, mais surtout de mouvement et d'un mode de vie plus sain pour lutter contre la sédentarité. Mon ambition est de devenir champion du monde et de vous aider à en faire de même en vous lançant vos propres défis. Toutes les semaines, je partage mon expérience, des conseils, des rencontres avec des personnes inspirantes. Et s'il y a bien une championne du monde de son monde, c'est vraiment Perrine Fage. Difficile de ranger Perrine dans une catégorie marathon, Ironman, dont Hawaï, enduroman, ultra, ultracyclisme, aventure. Perrine Fage a parcouru une centaine de pays et vécu des aventures incroyables. Et pourtant, Perrine est assez récente dans ce domaine, hein. Il n'y a pas si longtemps que ça, elle ne faisait pas de sport. Oui, pas de course, pas de vélo. Ensemble, nous avons parlé justement de son parcours de cavalière de haut niveau, puis de son arrêt du sport et de sa reprise il y a quelques années, et comment elle enchaîne les disciplines et les défis. Nous avons aussi parlé de ses conditions d'entraînement, du Qatar, de l'Arabie Saoudite où elle réside, du désert et du fait d'être une femme à vélo. Nous avons parlé de ses courses et aventures, Northman, Swiss Peaks, du lac Baïkal et du Kilimandjaro. Et puis, nous avons aussi discuté de ses projets comme la traversée de la Manche en maillot qu'elle prévoit, du Tour des Géants et quelques autres projets. Nous avons aussi parlé de ce que son ultra-cycliste compagnon de route, Steve Le Yarrick, lui a permis d'apprendre et comment il se complète. Mais aussi, vous allez écouter qu'il y a quelques défis dans lesquels il voudrait bien l'embarquer. Et vous allez voir la relation un petit peu défi qui est très très amusante. Et vous savez quoi? Et bien Steven sera justement l'invité du prochain épisode la semaine prochaine. Alors avant de vous laisser avec mes discussions avec Perrine, je voudrais vous faire quelques rappels. Ça fait longtemps que je ne les ai pas fait. D'une part, si vous pouvez partager le podcast sur Instagram avec le hashtag KM42podcast et vous me taguez @BertrandSoulier. Vous pouvez aussi le faire sur Twitter. Désormais, vous pouvez aussi écouter mes podcasts sur l'application Tumult Podcast. Hein. C'est l'application qui vous permet de laisser un commentaire et de poser vos questions tout en écoutant, en fait. Hein. C'est que vous écoutez et puis à un endroit, s'il y a une petite réaction que vous voulez faire, bien, vous mettez un petit commentaire et ça le mettra pile à la seconde où vous avez réagi. Vous pouvez le faire en allant sur tumult-podcast.com, il y a une application à télécharger, et vous y retrouverez tous mes podcasts. Et puis, vous savez que mon but du jeu pour moi, c'est d'être champion du monde de mon monde, et ben, ça passe aussi par le financement de ce projet. Vous pouvez me soutenir par Patreon à partir de 1€ par épisode. Vous pouvez soutenir ce rêve à moi de devenir sportif pro à ma manière. Vous obtenez les épisodes sans la pub, et en avance, ainsi que le journal d'entraînement, qui est un podcast privé avec les détails, toutes les anecdotes et tout aussi les petits détails sur les futurs invités et comment je prépare un petit peu les choses. Enfin, n'oubliez pas aussi que autour de Kilomètre 42, c'est aussi le Hamsters Running Club qui se décline avec une chaîne YouTube, hein, avec des vidéos complémentaires, et puis bien sûr, le club en lui-même, hein, la communauté bienveillante pour vous entraider à réussir tous nos défis. Alors c'est simple, hein, vous regardez dans les notes de l'épisode, il y a un lien, vous tapez à la porte, vous dites bonjour, je suis là, et puis vous venez discuter. Comme ça, comme vous êtes, tout ce qui est dans le club reste dans le club, hein, c'est pas sur Facebook, sur les réseaux sociaux ou ailleurs, c'est vraiment entre nous. Voilà, vous savez tout, tous les liens sont dans les notes de l'épisode. Maintenant, il est temps pour nous de partir dans la roue de Perrine. Accrochez-vous, c'est parti. Bonjour Perrine.
Bonjour.
Comment vas-tu?
Très bien, merci. Je suis en week-end, alors tout va bien.
Ah, c'est génial parce que, alors on en parlait juste avant de commencer à enregistrer. On disait, oui, t'es en week-end le vendredi, le samedi. Et tu sais, j'ai eu beaucoup de questions parce que c'est un sujet qui va revenir. Il y a beaucoup de gens qui se demandent finalement à quoi ressemble un petit peu ta vie. En disant, parce qu'on te voit faire plein de ce qu'on appellerait à mon niveau des exploits, tu vois. Mais ils se disent, mais comment elle s'organise? Comment elle arrive à faire tout ça? Alors, il y a un peu ce mystère, tu vois, que dans ma communauté, les gens, ils aimeraient bien percer. Alors, avant d'arriver là-dessus, quand même, je pense que j'ai quand même beaucoup de gens qui te connaissent parce que j'ai eu beaucoup de questions. Mais on va essayer de repositionner un petit peu, finalement. C'est un peu ton parcours pour arriver à où t'en es.
Oui, bah alors, du coup, oui, en effet, moi, c'est vendredi, samedi, mon week-end, parce que je suis actuellement à Riyad, en Arabie Saoudite, où je vis depuis 4 mois. Et avant, j'étais au Qatar. Donc, on va dire que ça fait 6 ans que je suis expatriée. Je suis avocat de formation. Là, actuellement, je suis juriste d'entreprise. Et donc, le parcours, c'est un parcours assez récent dans le sport. Récent et pas récent, j'étais athlète enfant, donc jusqu'à mes 18 ans. Donc j'ai ça quand même dans le sang, la compétition, les sacrifices pour parvenir à arriver en équipe de France, à arriver à être le meilleur dans sa catégorie, à progresser, etc. Donc ça, j'ai quand même ça en moi. Mais j'ai arrêté à 18 ans. Après, j'ai fait mes études, j'ai voyagé. Donc, c'est un peu comme ça que j'en suis arrivée à tout ça. C'est un mélange de tout. C'est un parcours un peu original. Comme tout le monde, hein, chaque petite chose dans la vie m'a amenée quelque part. Et ça a pris un chemin qui n'était peut-être pas une voie très classique, on va dire. Mais chaque expérience m'a amenée quelque part, petit à petit. Et là où je suis actuellement.
C'était quoi ta discipline?
Je faisais de l'équitation en concours complet.
Ah oui, ouais. J'ai regardé ça l'autre jour au JO.
Voilà. D'ailleurs, Nicolas Touzin, on était en équipe de France ensemble quand on était junior.
D'accord. Voilà. Et en les voyant, enfin, je sais pas la question, en les voyant, tu te dis pas que tu aurais pu être au JO, toi?
Alors oui, j'aurais. C'est encore plus marrant quand tu vois que donc Nicolas, qui est à mon âge, on était ensemble en équipe de France, donc. Alors moi en fait j'ai fait un choix, donc c'est moi qui l'ai fait, c'est pas mes parents qui m'ont poussé. Moi j'ai déjà raconté cette histoire plusieurs fois, j'ai raté le bac et là mes parents m'ont puni, j'ai plus le droit de monter à cheval, ils m'ont puni. Et une fois que j'ai eu mon bac, je suis partie travailler dans les chevaux pour faire mon métier là-dedans. Et au bout de 3 mois, j'étais aux États-Unis, j'ai appelé mes parents et j'ai dit je veux aller à la fac, j'ai envie de découvrir le monde, je veux pas rester là-dedans toute ma vie, pas parce que j'aime pas, pas parce que j'aime pas les chevaux, pas parce que j'aime pas, mais parce que j'avais pas envie de ne connaître que ça dans ma vie. Et je sais pas du tout un jugement de valeur vis-à-vis des gens qui font ce choix de carrière, hein, mais en tout cas moi c'était pas celui que je voulais avoir. Et donc à partir de moi, ce choix vient de moi. Je l'ai jamais regretté. Le manque du cheval m'a manqué, de l'animal, du contact, de effectivement, quand je vois les gens au JO, je me dis moi j'irai jamais aux Jeux. Ça c'est vrai que le rêve olympique, voilà, mais on vit avec, hein.
Oui, d'un autre côté, on avait un invité hier sur le live, qui est Redouane, et qui nous racontait que lui, il a un handicap, tu sais, et il disait que finalement le rêve pouvait se faire de son côté, parce que des fois dans des disciplines, des fois il y a des ouvertures qui peuvent se faire.
Oui, j'en ai parlé un jour à mon coach, je lui avais dit mon rêve c'est de faire les JO. J'ai un coach qui, tu vas le voir, tu lui demandes n'importe quoi, il trouve une solution pour y parvenir. Et puis il m'avait dit t'inquiète pas, on trouvera une solution. Et puis entre temps j'ai été pas mal occupée avec d'autres choses et donc je suis pas revenue là-dessus, mais si je lui en reparle il trouvera une solution peut-être.
Ah, c'est le coach, la malice, qui a toujours des astuces alors.
Non, mais il pense que, ouais, il y a toujours une solution à tout, on peut tout faire dans la vie, et donc j'aime bien cette approche-là.
Alors ça, c'est une phrase, on peut tout faire dans la vie, et j'ai l'impression que ça caractérise beaucoup, en fait, parce que tes projets, tes aventures, on a l'impression que tu... Alors, je dis pas que t'as pas de limite, mais on a l'impression que tu peux faire plein de choses différentes.
Je suis assez curieuse de nature pour tout. Et c'est vrai que, voilà, il y a quelqu'un qui me parle de quelque chose, je vais commencer à me renseigner, je vais m'interroger. Et si quelqu'un me parle d'une discipline, de quelque chose qu'il a fait avec des petits cœurs dans les yeux et des papillons dans le ventre, ça va vraiment m'intriguer. Et je vais chercher à voir, et puis d'un coup peut-être que après ça me donne envie et je vais essayer, et là j'ai, et puis après du coup j'y vais à fond. Oui, souvent ça se passe comme ça.
Mais enfin, par exemple l'enduroman, enfin le truc qui marque plein de gens, parce qu'on se dit mais comment on peut faire ce truc, comment tu en viens à arriver à te dire je vais faire l'enduroman?
Alors là pour le coup tu vois c'est pas des raisons qui sont de passion ou de quoi que ce soit, alors que le reste pour moi c'est plutôt de la passion, de l'amour du sport. L'enduroman, c'est quand je me suis inscrite en enduroman, je vais pas mentir, je pense que c'est une question d'ego. Je faisais du triathlon, j'ai commencé le triathlon en fait quand je suis arrivée au Qatar en 2015. Et tu sais, le triathlon c'est une discipline, surtout l'Ironman, où tout le monde te donne des leçons tout le temps, mais non, il faut pas faire comme ci, il faut pas faire comme ça, tu vas pas y arriver, si tu mets une trifonction bleue, tu vas perdre 5 watts. Enfin, Et c'est que ça tout le temps, et tout le monde te juge et te critique. C'était assez fatigant. J'ai eu la chance de faire des bons résultats en Ironman. Bon, je n'ai pas été championne du monde, hein, mais j'ai fait des bons résultats en Ironman. Et puis j'ai eu ma qualif par beaucoup de chance pour Hawaï, et là je me suis dit bon, si tu vas à Hawaï, après c'est quoi la suite, tu vois, et je crois que j'avais un peu envie de faire taire un peu tout le monde, alors que bon, déjà à Hawaï ça suffisait, mais bon, comme il y avait eu quand même un gros coup de chance sur la qualif, je crois que j'avais besoin de, et puis moi aussi, de me tester mes limites, parce qu'en fait, si tu veux, l'entraînement à Ironman est très exigeant, mais c'est toujours la même chose. Donc ça, pour moi, c'est, psychologiquement, c'est difficile. Et je pense que si tu veux faire un Ironman, pour une fille comme moi, je sais pas, en 10h50, et si tu veux passer sous les 10h, là, il y a un entraînement vraiment très difficile. Et puis, est-ce que ma physiologie à moi me le permet ? J'ai une bonne physiologie, je me blesse pas, je m'entraîne énormément. Mais les seules fois où j'ai vraiment touché les limites des blessures, et bon, je me suis jamais blessée, mais c'est à chaque fois que tu mets beaucoup plus d'intensité, quoi. Donc, est-ce que j'avais envie de passer tout mon temps pour passer sous les 10 heures, ou est-ce que j'avais envie de faire des aventures où là, j'allais me challenger différemment, pousser les limites différemment, hein. Donc, moi, je suis quand même pas toute jeune, et l'endurance est venue naturellement. Donc, il fallait rallonger les distances. Et donc, ce fameux coach, je suis allée le voir, je lui ai dit, je veux faire l'épreuve de triathlon la plus dure qui existait. J'ai tapé sur Google. Et j'ai dit, ah, c'est génial, mais je suis nulle en natation, merde, comment on fait ? Et alors, par chance, il s'est avéré que mon coach était très ami avec quelqu'un qui a détenu le record sans combinaison, enfin, avec la traversée en combinaison de l'Enduroman. Et donc, on a discuté en me disant, voilà, Perrine, elle est nulle en natation. Enfin, elle est nulle. Elle n'est pas très forte en natation. Est-ce que tu penses que dans 8 mois, elle est capable de traverser la Manche ? Et il nous a donné un programme. On a travaillé avec des experts. Et voilà. Et on en est arrivé là. Après, une année très, très, très difficile d'entraînement, très fatigante. Est-ce qu'on aurait dû ne pas faire autrement ? Je ne sais pas. En tout cas... ça a marché. Ça n'a pas marché la première fois. Je pensais aussi ma tête n'était pas là où elle devait être la première fois. Puis bon, il y a eu aussi des mauvaises conditions, etc. Et la deuxième fois, ça a marché. Donc, voilà.
Parce que c'est ça que j'ai envie de te dire, c'est que la première fois, ça ne marche pas, mais tu y retournes juste derrière.
Ouais. Bah, je pense que je n'y serais pas retournée en an après parce que comme je te dis, j'aime pas refaire la même chose, j'aime pas me traîner tout le temps au même truc. Enfin, voilà, moi j'ai besoin d'avancer, enfin, en tout cas de faire autre chose. Et en fait, quand j'ai eu une énorme déception, évidemment, quand je suis arrivée à Paris en me disant putain, j'ai dépensé autant d'argent, j'ai dépensé autant de. Ça coûte très cher. Pendant un an, j'ai sacrifié tout. Je faisais mon boulot, mon entraînement. J'ai pas vu mes amis, j'ai pas vu ma famille pendant 8 mois. Et je me disais tout ça, quoi, pour rien. Et puis là, il y a une fille qui m'a dit, qui elle aussi, que j'avais vue au départ. On s'était pris dans les bras au départ. Parce qu'en fait, il y a plein de bateaux qui partent de Tours en même temps. Et cette fille, une américaine, me dit, m'a envoyé un message. Elle m'a dit, moi aussi, j'ai pas réussi. C'était une journée très difficile, Perrine. Elle faisait juste la traversée. Enfin, juste. Elle était en maillot, donc c'est encore plus dur. Et elle me dit, Perrine, reste. Moi, je reste à Douvres. Je ne pars pas de Douvres tant que j'ai pas traversé. Je lui dis, mais attends, mais toi, tu fais la traversée. Moi, je me suis tapé quand même 140 bornes à pied, 250 à, bon, 300 à vélo, ça c'est rien. Mais j'ai fait un effort de 70 heures. Et puis elle avait abandonné au bout de 6 heures, moi j'ai abandonné au bout de 16 heures dans l'eau, c'est quand même des choses qui sont assez traumatisantes pour le corps. Elle me dit, bah, écoute, fais-le dans un mois. Et là j'ai dit, mais t'as raison. Et j'appelle mon coach et je dis, mais Ryan, on le fait tout de suite, là, on le fait tout de suite. Et j'ai appelé l'organisateur, il me dit, mais oui, bien sûr, je vais te trouver un bateau, et puis tu vas battre ton record et tu vas avoir ce que tu veux. Et puis là, en fait, voilà, c'est allé très vite. Moi, entre les deux, ouais, ça passe vite, quoi. Voilà. Je suis rentrée à Doha, je n'ai pas trop nagé, je me suis reposée et on a enchaîné. Voilà.
Et parce qu'il faut le dire quand même, c'est vrai que le premier tentative, c'est que tu peux pas arriver sur les côtes, en fait. C'est-à-dire que tu es pris dans les courants et c'est ça. Hein.
En fait, il faut que tu compares ça. Admettons, tu es sur ton vélo. Et t'as ton col, le col il est à 10 km voilà, il est à 10 km, ok. Si tu roules pas à 15 km/h, le col jamais tu vas l'atteindre parce que tu vas reculer en fait.
Ouais.
Donc voilà, si tu roules à 14, non en fait si tu roules à, en fait c'est pas ça, c'est si tu roules à 14, le col il va être à 11 km, si tu roules à 13, le col il va être à 12 km, et si tu roules à 10, jamais tu arriveras au col. Jamais tu n'atteindras jamais le sommet, et même si tu tournes les bras pendant 20 heures. Donc en fait il y a ça. Il y avait une histoire aussi de pilote de bateau qui n'était pas très coopératif. Bon, ça, je pense que ça y a joué. Et je pense qu'il y a moi qui, dans ma tête, n'ai pas assez cru en moi. Ouais. Et j'aurais dû me battre plus. J'aurais dû être sûre dès le début que j'en étais capable. Et maintenant, j'en suis persuadée. L'année prochaine, je refais la traversée en maillot, ce qui va être beaucoup plus dur, juste la traversée. Mais voilà, c'est maintenant je sais que j'en suis capable. Après, voilà, je pense qu'il y avait plein de raisons et puis surtout des conditions de merde. J'aurais eu des bonnes conditions, je l'aurais passé. Mais bon, voilà, cette course, c'est pareil pour tout le monde. Enfin, c'est à la fois pas pareil pour tout le monde, mais c'est à la fois pareil pour tout le monde dans le sens où personne ne contrôle la météo et voilà. Donc, on est tous un peu à ce niveau-là, à la même enseigne, même si il y a des gens qui l'ont fait sur une mer d'huile. Donc, mais il n'y a aucune injustice là-dedans. On le sait dès le début, c'est la mer, c'est comme la montagne.
Oui, mais c'est vrai, en fait, entre mes différents podcasts, ça fait plusieurs personnes qui ont fait l'enduromane, à qui je parle, etc. Et il y a un point commun quand même, c'est cette traversée de la Manche. Alors, je ne sais plus qui m'a dit ça, que c'était un peu comme l'Everest finalement pour la nage, hein, de traverser. On dirait qu'ils... Enfin, mon tout dit, il se passe des trucs dans la tête, dans ces moments-là, qui sont vraiment, vraiment spéciaux, quoi.
Je pense aussi que par rapport aux gens qui ont fait l'enduromane, par rapport aux nageurs d'eau libre, je ne parle pas des nageurs d'eau libre qui sont en compétition, je parle des nageurs d'eau libre qui préparent la traversée de la Manche ou d'autres traversées, des amateurs. Ben nous, les gens qui font l'enduromane, on n'y comprend rien à ça. On est nuls. On ne connaît pas ce milieu, on ne connaît pas ces gens. Et on trouve ça hallucinant. Et moi, je sais que j'ai vécu dans mes entraînements. J'ai vécu des choses dans mes entraînements avec, voilà, tu es en communion avec l'eau, etc. Tu vois des choses. Oui, c'est très particulier. Et je pense aussi que moi, si le seul conseil, j'ai aucun conseil à donner pour l'enduromane, mais le seul conseil que j'ai à donner si quelqu'un devait le faire, c'est aller à Douvres. Aller rencontrer ces gens-là qui sont des nageurs amateurs qui préparent depuis 10 ans leur traversée de la Manche, qui savent ce que ça veut dire. Tous les gens à Douvres qui connaissent tout ce milieu, toute cette ambiance. Monter sur un bateau, voyez ce que c'est que de traverser la Manche sur un bateau et après, en fait, de traverser. Et moi, j'y suis retournée l'année dernière sur un relais. Et c'est, en plus, c'est un milieu qui est formidable. C'est des gens qui sont adorables, avec un super esprit et c'est aussi pour ça que j'ai envie de retraverser un maillot pour même s'ils sont pas du tout enfin voilà c'est pas des gens qui disent ouais toi tu l'as fait en combi ça compte pas ce qui moi dans ma tête c'est ce que je pense mais les nageurs d'eau libre ils sont tellement gentils et tellement pas donc voilà c'est un super milieu et c'est très bien que aujourd'hui Steph Stepnar qui le médiatise parce que c'est le meilleur ambassadeur pour ça. Et c'est des vrais amoureux de la nature et c'est bien que grâce à lui, on en parle maintenant.
Oui, mais alors moi quand même, je me dis, pourquoi vouloir retraverser en maillot ? En maillot, quoi. Enfin...
Parce que c'est la vraie traversée. Si t'as traversé en combi, t'as pas traversé. Et c'est beaucoup... Bon, déjà, c'est l'essence. C'est comme si tu disais, pourquoi je l'ai fait en vélo électrique, tu vois ? C'est l'essence même de la traversée de la Manche. Donc, c'est vrai que moi, quand j'ai traversé la Manche... En fait, si tu veux, à un moment dans mon entraînement où j'ai un autre coach qui est spécialiste là-dedans, et le jour où il m'a expliqué un peu tout ça, et c'était juste avant que j'aille traverser, le jour où j'ai compris ce que c'était, j'ai dit, ah ben, en fait, j'ai pas du tout envie de faire du roman, j'ai envie de traverser la Manche. Il m'a dit, t'es pas prête pour ça, là, c'est dans un mois, là, t'es pas prête pour ça, tu t'es pas acclimatée au froid, t'es pas prête pour ça. Fais ton enduromane, tu traverseras après. Et après, il y a des gens qui ont fait l'enduromane et qui, pour eux, ça signifie rien. Moi, pour moi, ça signifie quelque chose. Et comme ça signifie quelque chose, je veux faire la vraie. Mais c'est personnel, hein, je dis pas qu'il y a qu'une façon de voir les choses. Hein.
Non, mais c'est vraiment intéressant, parce que justement, c'est ta philosophie de l'aventure, de voir les choses, parce que t'es parti... Je sais pas sur combien de continents finalement t'as roulé, t'as couru, t'as nagé ou je sais pas combien, j'ai l'impression que t'es allé partout.
Bon, une centaine de pays. Bon, il en reste un paquet encore. Hein. Bon, je ne fais pas des listes, ce n'est pas le but. Hein. Mais là, aujourd'hui, c'est vrai que j'ai un peu avec le Covid. Et puis là, je suis installée ici en Arabie. Donc, je pense que je vais un petit peu moins bouger parce qu'il y a beaucoup de choses à faire dans ce pays qui est très grand. Donc, j'ai pas mal de projets ici. Oui, moi, je trouve que c'est important d'explorer les différentes cultures, les différents climats, les différents terrains. Et c'est hyper enrichissant. Voilà.
Alors, ce qui est drôle, c'est que tu dis Qatar, Arabie Saoudite, donc il fait chaud, hein, dans l'esprit, en tout cas.
Oui. Ouais, et... bah là, je viens de rouler, il faisait 49, tu vois, à l'ombre. Hein, à l'ombre.
Ouais, on n'a pas l'impression que ce soit un terrain d'entraînement qui soit vraiment le plus facile pour s'entraîner,
écoute,
en fait.
Écoute, le Qatar, ça ne l'était pas du tout, parce que en gros, je m'entraînais sur des lignes droites d'autoroute. Et pour la traversée de la Manche, il y avait un jet ski qui me suivait. Ou alors, je faisais le tour d'un resort. À 6 km au large, il y avait un resort et je faisais le tour de cette île et l'eau, elle était à 32, quoi. Il y a même un moment dans l'été où tu peux pas nager parce que sinon c'est pas très bon pour la santé, quoi. Elle est trop chaude. Et puis tu sais, tu t'adaptes là. Bah ouais, là je m'entraîne, je fais des escaliers sur la machine à escalier pour l'UTMB. Bon, ici c'est encore autre chose parce qu'il y a du dénivelé, il y a des montagnes un peu plus loin, c'est un vrai pays, c'est un énorme pays, il y a plein de choses, quoi. Donc ici c'est un peu plus adapté à l'entraînement, mais le Qatar à la fois était pour moi aussi un formidable centre d'entraînement dans le sens où j'avais des piscines, j'avais une salle de sport, je travaillais à côté de là où j'habitais et mes amis faisaient du sport et bon, tu vois, voilà, tout mon temps était sacrifié pour ça, quoi. Donc c'était à la fois très simple. Quand je suis en France, j'arrive jamais à m'entraîner, je vais boire des coups avec des gens, je suis pas concentrée, quoi.
Pour moi aussi c'est le désert. Et comme j'ai parlé, j'ai eu deux fois Cécile Bertin dans les podcasts et elle adore tellement le désert. Et je sais que vous connaissez très bien. Et c'est un truc, t'aimes autant le désert qu'elle ?
Bah, moi, je suis plutôt montagne. Non, j'aime pas autant le désert qu'elle. Et je pense que là, je commence ici à vivre des choses dans le désert que j'avais pas spécialement vécu avant. Parce qu'avant, j'allais dans des déserts avec. Plus bah, avec une structure autour parce que et là ici bah ça m'arrive, voilà, tu prends ta voiture, c'est vraiment sauvage ici, hein, vraiment. C'est bon, je veux pas faire la promotion du pays parce que je me fais défoncer sur les réseaux sociaux, donc mais bon, voilà, enlever le nom du pays et l'image que ça peut avoir avec tout son passé, là on va parler pure géographie et pure aussi humainement aussi, et en fait c'est incroyable, quoi. Il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas d'hôtel, et en fait tu prends ta voiture, tu dors dans ta voiture, ton vélo, et tu fais c'est vraiment sauvage, quoi. Tu rencontres des gens, les gens ils hallucinent, ils n'ont jamais vu un touriste, encore moins une nana sur un vélo, quoi, t'imagines. et donc tu es au milieu du désert et tu as un bédouin qui vient t'apporter à manger, à boire, ils sont tellement gentils, quoi, c'est incroyable. Donc je pense que là, je suis en train de devenir désert, mais j'étais plutôt montagne quand même, plus.
Oui, montagne et puis froid aussi, parce que finalement, l'Aïe Baïkal, ouais. C'est pas du tout le même environnement que le Moyen-Orient.
Ouais, j'aime bien le froid aussi. Mais tu sais, quand pour le lac Baïkal, j'étais allée m'entraîner le week-end, parce que donc du Qatar, bon, alors ça aussi, je me fais beaucoup engueuler sur mon bilan carbone, mais bon, le Qatar, c'était une île, c'est la vérité. Et le Qatar, c'était une île, donc dès que tu veux bouger, il n'y a pas de bateau. Donc dès que tu veux bouger, tu es en avion. Et donc j'avais les montagnes les plus proches, c'était tout ce qu'on appelle le Petit Caucase, donc Azerbaïdjan, Arménie, Géorgie. Et donc j'allais m'entraîner là, je sortais du boulot, je prenais genre mes raquettes et tout dans mon sac, et après j'allais dans ces pays m'entraîner dans le froid ou dormir dehors parce qu'il fait bien froid quand même en Arménie l'hiver, là il y a des montagnes, et il y a toujours moyen d'arriver à t'entraîner, quoi. Mais c'est vrai que... Et puis, tu sais, le froid et le chaud, ça se ressemble aussi. En fait, c'est tout ce qui est extrême, ça se ressemble. Et le froid, tu peux t'habiller, le chaud, tu peux pas. mais tu as des réflexes de survie qui sont finalement les mêmes dans les deux sens. Donc finalement, vivre dans un milieu extrême ou l'autre, ça peut être un avantage, à mon sens.
Et c'est vrai que tu parles du Caucase, il y a un sacré terrain quand même. Alors, c'est pas l'endroit le plus safe du monde, hein, quand même.
Non, ça va, c'est juste que bon, il faut pas. En fait, il y a des pays, il faut les faire dans un certain ordre. Parce qu'en fait, si tu vas en Arménie, il faut pas aller en Azerbaïdjan, comme moi, parce que sinon, tu te retrouves un certain temps à la douane, en train de sortir tes raquettes et d'expliquer qu'en fait, tu. T'es avocate au Qatar, mais tu viens t'entraîner en Arménie et puis après en Azerbaïdjan, parce qu'en fait, tu vas faire une course dans le cercle polaire de 350 km. Et là, au bout d'un moment, les douaniers te laissent passer parce qu'ils ne veulent plus t'écouter, en fait. Ils en ont marre.
Tu disais, mais c'est qui cette personne-là? Moi, j'étais allé dans le sud de la Russie, à Sochi, qui est aussi une partie du Caucase. Et il y avait des zones dans lesquelles on n'avait pas le droit d'aller, en fait. C'est pour ça que je dis aussi, nos guides, ils disaient, mais ils disaient là, tu passes pas. Et puis, ils nous racontaient les vieilles légendes de la guerre, de la seconde guerre, en disant, ici, ils ne sont jamais passés, les Allemands ne sont jamais passés là, on a lutté, attention, dans les montagnes aussi, c'est dur, etc. Et puis, il faut le dire aussi, tu parles de froid, mais. Moi, il me racontait qu'il tombait 3-4 mètres de neige l'hiver, alors que l'été, c'est tropical. Tu peux aller t'entraîner en tropique. Hein. Sochi, c'est un espèce de climat vraiment incroyable. C'est vrai qu'il racontait des histoires quand même où tu te disais, il y a des zones du Caucase qui sont... Pour ça, je te disais, c'est pas si safe que ça. C'est qu'il y a des zones où tu peux pas aller quand même si facilement que ça.
Non, mais je suis tout à fait d'accord. Bon, en général, j'essaie de faire attention. Là, je traîne pas trop avec la frontière au Yémen, par exemple, mais je m'y suis retrouvée un peu par hasard il y a pas longtemps, parce qu'il y a des drones, tu vois. Bon, non, je fais attention, mais souvent le problème, c'est les tampons sur le passeport. Donc, je change souvent de passeport.
Dans les destinations aussi, il y a les le Népal.
Oui. Moi, le Népal, j'ai pas l'amour et la passion du Népal qu'a Steven, par exemple, qui est beaucoup de Népal. Moi, je suis une folle de Pakistan, tu vois, par exemple. Le Népal, j'ai vécu des choses magnifiques. C'était mes premières montagnes, etc. Avec Steven, on a fait un magnifique projet à vélo, enfin deux d'ailleurs. C'était vraiment chouette. Et puis lui, il connaît super bien. Il a un vrai attachement au pays. Moi, je reste un peu plus réservée dans le sens où j'ai eu une première expérience qui était assez mauvaise là-bas. Le guide qui te plante au milieu des montagnes parce qu'il est bourré, qui vend ton billet d'avion. Je trouve que c'est beaucoup de rapport à l'argent. En tout cas, moi, quand j'y suis allée, je me doute que Steven, il voit les choses, il voyage différemment là-bas. Moi, j'ai pas spécialement réussi. Et ça va pas du tout avec aujourd'hui. Par exemple, ici, quand tu voyages ou tu fais des trucs, t'as des rapports avec les gens. L'argent n'existe même pas. Enfin, c'est à aucun moment, c'est à prendre en compte. Donc, je trouve qu'au Népal, il y a un peu trop de ça. Je suis tombée, et j'y retournerai, l'amoureuse des montagnes du Karakoram, en revanche, au Pakistan. Ça, c'est vraiment... Et elles m'ont fait peur aussi, très, très peur, parce que j'ai été prise dans une avalanche là-bas. Et en même temps, Donc, il faut vraiment que j'y retourne. J'ai beaucoup aimé l'Iran, mais je n'y retournerai pas. J'y suis beaucoup allée quand j'étais au Qatar, mais je ne peux pas y retourner maintenant que je suis en Arabie, pour le coup. Sinon, je ne pourrais plus revenir en Arabie, malheureusement.
Oui, parce que la géopolitique de ces espaces n'est pas simple à gérer.
Moi, je suis au point maintenant. C'est complexe, ça change souvent. C'est un peu comme les mesures Covid, où est-ce que tu peux aller. Ça change tout le temps, quoi. Où c'est que tu peux aller sans quarantaine, c'est où c'est que tu peux aller et pouvoir retourner chez toi après.
Ouais, comment tu voyages, par où tu passes, etc. C'est pas des passages faciles, quoi.
C'est un peu la même chose. Oui.
Puis c'est drôle que tu parles de Steven parce que tu parles de cette histoire de frontière. Ça me fait penser à l'anecdote qu'il racontait l'autre jour sur Nerdscape où. Il passe la frontière où normalement qui est fermée, mais les mecs sont en train de faire le barbecue. Il y a des histoires comme ça. Je suis sûr qu'il y a des histoires incroyables qui se passent sur, alors pas que les frontières, mais des gens que tu rencontres quoi, dans toutes ces aventures.
La chef de Steven, elle est énorme qu'il ait laissé passer là. Mais bon, il est allé, il a tenté. Moi, j'aurais fait la même chose que lui, mais lui, il pensait qu'il allait être arrêté. On l'a laissé passer, il a continué. Enfin, c'est une histoire de fou. Nous, il nous est arrivé des histoires, notamment au lac Baïkal. Hein. Je pense que là, c'est vraiment la totale. Si tu veux, on était complètement plantés dans 2 mètres de neige. Enfin, pas 2 mètres, mais on avait 1,20 m de neige. On pouvait plus avancer à vélo, quoi. C'était fini. Mmh. Et là, t'es au milieu du lac. Mais comment tu fais, en fait? Parce qu'en fait, le lac Baïkal, t'as des endroits où ça roule, tu vois. Mmh. Il faut pas croire que c'est que sauvage. Hein. Il y a des grandes parties où c'est des autoroutes, hein. Mais il y a des parties où il y a rien du tout. La glace n'est pas assez épaisse, les voitures passent pas, ou alors il y a pas de village qui borde la côte, donc il y a aucune activité sur le lac si ce n'est des pêcheurs qui font un peu des bornes pour aller pêcher. Et donc là, on s'est retrouvé à mi-aventure à se dire bon, mais là, on est foutu, quoi. On est foutu, on n'aura jamais notre avion. Puis c'est en pleine merde du Covid au début. Et puis là, on trouve des pêcheurs qui nous disent allez dans la cabane là, et on arrive chez un mec, mais il nous a pas adressé la parole, mais en même temps, il a fait tout pour nous, tu vois. Il nous a pas adressé la parole, c'était vraiment le grand russe qui veut pas parler. Vraiment, on lui parlait, il souriait pas, et en fait, il a été tellement gentil, et il a trouvé une solution pour nous, mais c'était impossible de communiquer. Et pourtant, sans communiquer, il a résolu des problèmes, il a compris, il nous a fait des choses, il nous a aidés, il nous a même un jour fait à manger. Et moi, j'étais dans cette cabane-là, je me disais, mais oh, qu'est-ce qu'on fout là, mais qu'est-ce qu'il va nous faire? Et nous, il arrive avec sa hache en pleine nuit et tout. Et en fait, c'est vraiment le plus gentil au monde. Mais bon, des histoires comme ça, on en a mille. Et moi, là, en Arabie Saoudite, j'en ai tous les week-ends, quoi. Tous les week-ends, des histoires où... Enfin, voilà, j'ai... Les gens, ils hallucinent de me voir. Alors, ils me donnent tout ce qu'ils ont, ils me le donnent, tu vois. C'est assez marrant. C'est vraiment, ils ouvrent leur maison, ils me laissent leur salon de réception, ils l'ouvrent, ils me laissent là avec de la nourriture. Enfin, voilà, il se passe plein de choses, quoi. Mais ouais, il faudrait les regarder, les anecdotes, parce que franchement, il y en a qui sont assez marrantes. Mais le Baïkal, c'était pas mal.
Mais c'est vrai que ce que tu dis sur l'Arabie Saoudite par rapport aux gens, l'image qu'on en a, on se dit une femme en Arabie Saoudite qui fait du vélo et de la course, ça semble pas compatible dans l'esprit, tu vois. De...
Ouais, écoute, après, bon, à Riyad, par exemple, il y a plein de nanas qui. Y a, partout dans le monde, c'est le principe. Il y a des gens qui s'entraînent pour un Ironman, quelque part, dans une capitale. Il n'y a aucune capitale au monde où il n'y a pas une personne qui s'entraîne pour un Ironman. Donc, il y a énormément, il y a une communauté de triathlètes qui s'entraînent. Il y a un coin où là, tu peux rouler en short, tu fais ta vie, personne ne va rien te dire. Après, dès que tu sors un peu, c'est à Jeddah, à Riyad, il n'y a pas de souci, à Dammam aussi, dans les grandes villes. Après, dès que tu sors un peu de tout ça, déjà, les femmes là-bas dans les villages, elles sont beaucoup plus couvertes et tout ça que dans les villes, parce qu'en fait, maintenant, depuis 2 ans, les femmes ont les mêmes droits, etc. Elles sont plus obligées elles ont beaucoup moins de restrictions qu'avant, normalement d'ailleurs plus aucune. Mais après, il faut que les mentalités changent. La loi change et après les mentalités. Donc ça évolue dans les villes. Tu le vois de mois en mois, ça évolue. Et je pense que d'ici un an ou deux, quand j'en repartirai, ça n'aura plus rien à voir. Mais en revanche, dans les villages, non, là, c'est pas du tout la même, quoi. Et c'est vrai que les gens, ils me suivent, ils me filment. Moi, mon premier week-end, j'ai eu peur. Enfin, tu vois, je me suis dit, mais attends... Parce qu'en plus, tu as des gens qui te disent « Ah ben non, il ne faut pas faire ça » parce qu'en fait, personne ne l'a jamais fait. Donc du coup, ça c'est toujours... quand tu fais quelque chose que personne n'a jamais fait, tu as deux catégories de gens. D'autres qui disent « Oh non, il n'y a aucun problème !» parce qu'ils ne réalisent pas du tout ce que c'est. Et tu en as qui disent « Ah ben non, surtout pas !» Donc toi, tu dois trouver la balance au milieu, voir ce qui se fait pour que tu le fasses quand même en sécurité. Et pas non plus, moi, mon but, c'est pas d'offenser les gens non plus. Là, au bout de 3 mois, je roule en toute... je m'habille plus autant, on va dire. Mais le premier week-end... J'étais à 500 bornes de Riyad, j'avais pris le train, déjà je descends du train, j'avais tout le staff du train qui me prend en photo et tout, et après je commence à rouler, et c'était le vendredi matin, tout est fermé, tu sais, c'est comme le dimanche, donc et là les gens ils commencent, il n'y avait aucune voiture dans les rues, les gens ils me suivaient, ils revenaient, ils me suivaient, je me dis mais qu'est-ce que je fais là, mais qu'est-ce que j'ai en train de faire? Et puis je m'énerve, je m'arrête, je m'énerve, je tape à la porte du mec, je le fais s'arrêter, je lui tape, je fais qu'est-ce que tu veux? Et en fait, ils me montrent et ils adorent Snapchat. Moi, je ne sais même pas comment ça marche, je ne sais pas ce que c'est. Et en fait, ils faisaient du Snapchat. Et à la fin du week-end, parce que du coup, bah, tous les mecs, ils venaient me voir et ils allaient. Ah, il paraît qu'il y a une fille qui fait du vélo, là. Et à la fin du week-end, j'avais des voitures qui me cherchaient pour me mettre sur leur Snapchat. Donc voilà, donc maintenant je me détends un peu, et puis surtout ils sont tellement gentils et tout, mais après voilà, mais ça c'est partout dans le monde, t'es jamais à l'abri d'une mauvaise rencontre. Voilà, donc quelqu'un qui est choqué, mais voilà, aujourd'hui il n'y a plus de police religieuse, légalement tu fais ce que tu veux. Maintenant voilà, le problème c'est que c'est récent et qu'il y a toujours des gens comme partout qui sont un peu bêtes.
J'avais lu
que... Et j'ai des projets de rouler avec des femmes saoudiennes là, dans 300 km. Donc je vais présenter mon projet dans un mois à la fédération pour amener les filles sur du long, voilà, des saoudiennes. Voilà, pour qu'on fasse un truc ensemble. Ouais, sur un 300, déjà, ce sera pas mal. Et, voilà. On va voir ce que va dire la fédération. Mais en tout cas, ils vont me recevoir.
C'est bien en plus qu'ils soient déjà qu'ils te reçoivent pour parler d'un projet
ouais,
comme ça.
Oui, il y a une communauté. Je suis allée tout de suite. Il y avait un championnat saoudien de femmes cyclistes. J'y suis allée tout de suite supporter. Je l'ai su. Puis voilà. Puis après on intègre. C'était un peu feutré, secret et tout. Et en fait, voilà. Maintenant j'ai intégré. Donc maintenant j'ai un contact. C'est un peu long, mais voilà. Donc non, ils ont envie. Et puis elles s'éclatent sur leur vélo. Ben, on les comprend, moi aussi.
T'as dit, j'avais noté une citation, tu disais qu'en fait, quand t'arrives à vélo, et il y a beaucoup de bienveillance des gens quand ils te voient débarquer en vélo dans plein de destinations, etc.
Oui, oui, oui. Ça c'est pour moi, mon vélo, quand je suis à vélo, je me sens protégée, parce que je sais que parce que j'ai un vélo, alors sauf une fois, c'est à part cette année où je suis allée en Équateur, qui est dans une situation qui va pas très bien à cause du Covid, je suis arrivée à Quito. Je voulais pas aller à Quito parce que je connais bien Amérique du Sud et j'aime pas trop les villes Amérique du Sud, mais en fait j'avais pas mes bagages. Bref, je me retrouve coincée à Quito, je prends mon vélo, on essaie à deux feux rouges, on essaie de me le voler, tu vois. Donc déjà je me dis, ah putain, ok, super. Et donc je range mon vélo à l'hôtel et deux secondes après je me fais agresser, couteau et compagnie, me vole juste un téléphone parce que le reste c'était bien caché. Et là, si tu veux, là, je me suis interrogée sur la suite de mon voyage. Bon, je me suis dit, bon, c'est une ville, t'inquiète pas, il ne te dit pas que ça reflète l'Équateur, et d'ailleurs, je ne le pense pas du tout. Mais si tu veux, c'est la première fois que, parce que j'étais sur mon vélo, je me sentais plus vulnérable. Parce que les gens essayaient de voler des vélos pour faire des Uber, machin, la delivery, puisqu'il n'y avait plus de resto et tout ça. Et donc, tout le monde m'avait dit, surtout, fais attention, on vole les vélos. Et donc, je savais très bien de quelle manière ils s'y prenaient, puisqu'on m'avait déjà attaqué au couteau à pied pour le coup, en pleine journée. Enfin, bref. Et donc là, j'avais deux options qui s'offraient à moi. Est-ce que je rentre ou est-ce que je... Voilà, je m'éloigne de la ville et je fais mon voyage comme c'était prévu. Je l'ai fait, mais dès que j'approchais une ville, par exemple à l'entrée d'une ville, je demandais à un taxi de m'amener... Enfin, je suivais un taxi en vélo pour qu'il me surveille jusqu'à l'hôtel. Truc que je fais jamais, tu vois. Mais j'ai pas eu confiance. Et aujourd'hui, c'est revenu. Ça va. Donc j'ai eu des mois difficiles avec ça, suite à cette agression. Et aujourd'hui, ça y est, bon, en plus ici, évidemment, c'est tellement safe, voilà. Mais même ailleurs, maintenant, ça y est, c'est passé. Aujourd'hui, à nouveau, je sais que je suis protégée par mon vélo. Et surtout, je sais que grâce à mon vélo, des gens vont venir vers moi et je vais parler avec des gens, je vais rencontrer des gens. Et ça, c'est super, quoi. J'adore.
Oui, parce que c'est vrai que, pas Steven, mais son documentaire le montrait sur le Great Himalayan Trend, sur les gens sont surpris de voir quelqu'un arriver en vélo, des fois, et ils n'en ont jamais vu, sont jamais montés dessus. Ou, en plus, ces vélos-là, je veux dire que c'est des sacrées machines quoi, que vous avez en plus, donc y a une vraie curiosité, quoi.
Oui, oui, bah après, j'imagine que les gens à peu près partout dans le monde, ils voient des gens, des tours du mondiste avec des gros sacs et tout ça. C'est vrai que nous, on a un peu le look cycliste en configuration légère qui essaie d'aller vite, quoi. Donc voilà. Mais là, les Maasai et tout, c'était super. On leur a appris à faire du vélo. Steven, il adore faire ça, quoi. Et moi aussi. Mais moi, je ne les mets pas trop sur mon vélo en général, les gens. Steven, il les met sur le vélo, il adore ça, quoi. J'ai peur qu'il tombe. Mais ouais, il y a une bienveillance de la part des gens, c'est un outil formidable le vélo, et tu vois le pouvoir du vélo. Et là, je me dis, là, j'ai envie de faire des trucs avec les nanas parce que je suis sûre que le vélo peut être un objet d'émancipation, quoi. Et c'est ouais, le vélo, c'est un pouvoir bien plus puissant que juste une machine qui sert à faire du sport, bien plus puissant que ça.
Ouais, comment t'es venu au vélo en fait? Parce que au départ, quand tu te remets au sport. Enfin, on a parlé de ta carrière à cheval. Tu commences par la course à pied.
Oui, en fait, je commence par la course à pied parce que donc quand j'ai arrêté le cheval, j'ai fait beaucoup de voyages toute seule, à droite à gauche, et je me suis mis à la montagne et j'étais pas. Je me suis rendu compte qu'il fallait que je sois en forme pour aller plus haut. Ou pour faire des sommets plus intéressants, ou de l'alpi et tout. Donc, je me suis inscrite à la salle de sport pour me remettre un peu en forme. Et puis j'ai vu une copine faire un marathon. Je dis, ah, ça a l'air cool. Et puis voilà, donc je me suis mis à la course à pied. En vie de parisienne que j'avais, qui bosse 20 heures par jour dans un cabinet d'avocat, j'ai troqué, on va dire, l'apéro par la gym. Et le matin, à 5h du mat', j'étais à la salle. Bon, ça, j'ai toujours aimé me lever tôt et faire des choses. Mais voilà, donc du coup, je me suis mis tout de suite à Paris, à fond, les deux dernières années à Paris, donc course à pied, marathon, tout ça, et pour pouvoir continuer la montagne. Et puis, je suis partie au Qatar. Et en fait, j'avais plein d'amis triathlètes qui m'ont dit « Mais attends, mais viens, on s'inscrit à un triathlon. » Et j'ai dit « Ah non, mais le vélo, les habits, c'est moche. » Moi, vivante, jamais je mets un maillot de cyclisme et un cul-sac. Jamais je fais ça. Voilà. Moi, vivante, jamais bien jamais. Donc voilà, et je suis partie, ils m'ont convaincue. Bon, ils ont réussi à me convaincre en me disant « Écoute, si tu t'achètes un vélo, dans 6 mois, tu peux faire un Ironman. » Alors, c'était un semi, ils avaient dit. Mmh. J'ai dit, ah, là, déjà, c'est un peu plus intéressant. Donc, du coup, j'ai acheté mon vélo. Je suis partie à Boulogne. J'ai acheté mon vélo à côté du bureau. Et puis, un mois après, je suis partie à Doha avec mon vélo sous le bras. Et là, j'ai déballé mon vélo avec des tutos YouTube. je suis montée sur mon vélo. Je suis tombée avec les cales de vélo. Mmh. Je me suis ouvert le genou et puis je suis rentrée chez moi. J'ai dit à ma mère, mais maman, je crois que mon vélo, il n'a pas de vitesse. Et je suis allée sur YouTube et j'ai vu comment passer les vitesses parce que c'était à l'intérieur de la manette. J'ai dit OK. Et puis, une fois que j'avais réglé ce problème, j'ai dit bon, ben, j'ai dit à mes copains, non, mais sérieusement, on ne va pas faire un 70-3, on va faire un full Ironman. Hein. Non, mais t'es folle, Périne et tout, tu ne sais même pas faire du vélo. Et puis, j'ai dit, ben, tant pis, vous voulez pas. J'ai pris mon vélo, j'ai fait 180 km sur l'autoroute, toute seule. Je suis rentrée, j'ai dormi pendant tout le reste du week-end, j'ai mangé mon frigo intégralement et je me suis inscrite à l'Ironman de Nice. Et c'était décembre. Et l'Ironman de Nice, janvier même. Non, et l'Ironman de Nice, c'était juin.
Ah oui, ça fait court comme préparation quand même.
Bah non, c'est passé nickel. Mais surtout que j'ai fait aucune. Parce qu'au Qatar, tu fais la 200 bornes à la fin de ta sortie, il te reste 40 mètres de D+, quoi. Parce qu'il y a des dodanes.
Ça me rappelle une anecdote.
Donc,
aussi. Quelqu'un,
Nice, ça grimpe un peu. Hein. Nice, ça grimpe un peu. Mais ouais. J'ai pris un coach de vélo qui m'a pris travailler dur. Et j'ai progressé très vite. Donc j'étais encadrée. Il venait rouler avec moi. Je pense que ça a vraiment joué, ouais.
Et finalement, la natation, parce que c'était pas non plus ton sport, enfin voilà, quand on est à cheval, on nage pas, enfin, c'est quelque chose que tu pratiquais avant ou là aussi il a fallu que tu t'y mettes vraiment à ce moment-là?
Bah, nager ou?
Oui, la natation.
À la natation, quand j'étais plus jeune, j'ai fait pas mal de natation et. Je faisais des compétitions et tout, donc je savais nager. Mais ce qui est d'ailleurs un problème, en fait, parce que quand tu sais nager, tu crois que tu sais bien nager, sauf qu'en fait, je me suis rendu compte que pas du tout. Enfin, en fait, j'ai la technique, mais du coup, je travaille pas assez ma technique et je pense qu'il y a quelque chose aussi qui vient de là. Alors que j'ai des amis il y a beaucoup de gens qui se mettent au triathlon et qui hésitent pendant des années parce qu'ils savent pas nager, tu vois, ou ils ont jamais appris à nager quand ils. Et en fait, ces gens-là, le jour où ils se décident, ils prennent des cours et ils sont rapidement très bons. Ça, c'est un conseil que je donne aux gens qui croient que parce qu'ils ont 35 balais qui ne savent pas nager, ils ne pourront jamais faire de triathlon. Ce n'est pas vrai, il faut juste qu'ils prennent des cours. Moi, j'ai un de mes meilleurs copains, et maintenant, il est bien meilleur que moi. Et en plus, j'en étais au lycée ensemble, il ne savait vraiment pas nager. Et en fait, ça va très vite. Et en fait, il ne faut pas te dire, j'ai 35 ans, je ne sais pas nager, je ne saurais jamais nager le crawl. Ça, ce n'est pas vrai. C'est même peut-être parfois plus facile que quand on savait déjà nager avant et qu'on a des défauts et tout ça. Voilà.
Bah, tu sais, c'est vachement rassurant pour moi, parce que moi, c'est mon problème, la natation. J'ai fait un swim run l'an dernier, et ce que je disais, j'ai l'impression que je coulais, tu sais, malgré mes entraînements, etc. Et pour viser l'Ironman, parce que c'est un de mes projets, je me disais, mais enfin, la natation, c'est le truc qui me semble insurmontable. Et en fait, à chaque fois, il y a toujours quelqu'un qui va me dire, mais non, tu verras, ça passe mieux que ce qu'il y paraît.
Ah oui, oui. Enfin, en tout cas, moi, j'avoue que quand mon ami m'a dit, on avait des souvenirs, j'ai des souvenirs de lui au lycée pour le bac, et quand il me dit, voilà, on prend le départ de la natation, je me suis dit, ça va être compliqué, quoi, pour lui. Et en fait, non, on me dit, il faut prendre des cours, par contre, parce qu'il y a une technique, et voilà, il faut que je prenne 10 cours, et basta, hein. Enfin, après, ça dépend des gens et tout ça, mais... Ouais, il faut prendre des cours et moi j'en suis persuadée, il n'y a pas que lui, je connais plein de gens. Voilà. Donc, et je suis la première étonnée qu'on puisse aussi vite apprendre à nager, etc. Et non, donc il ne faut vraiment pas hésiter. Et tous les gens qui hésitent à se lancer dans le triathlon, alors après, évidemment, c'est pas sympa le triathlon, les départs, tu prends des coups dans ta gueule, mais ça même quand tu sais nager. Hein. Donc c'est vrai que quand tu ne sais pas très bien nager, mais bon, maintenant avec les Ironman et les départs en Rolling Start, c'est beaucoup moins impressionnant que, par exemple, tu pars à Lanzarote, c'est un départ en masse. Là, tu te fais rouler dessus par 2000 personnes sur toi, c'est épouvantable. Et ça, si tu ne sais pas bien nager, c'est même pas une question de vitesse. C'est vrai que ça peut être assez traumatisant. Mais un départ en rolling start, franchement, ça va. Faut pas...
Ouais, puis tu sais, Marine Leleu, elle m'a dit, ouais, mais dans ce cas-là, de toute façon, tu restes, tu les laisses tous partir, et puis toi, tu pars tranquillement à ton rythme derrière.
Oui, oui, elle a raison aussi, hein. Elle a raison, et puis moi, j'ai un souvenir de Lanzarote, un truc horrible, tu sais, j'avais les... En fait, quand tu fais beaucoup d'Ironman, t'as un truc prioritaire, soi-disant, genre que t'es fort, mais en fait, c'est pas parce que t'es fort, c'est que t'en as fait plein. Et bref, j'avais le bonnet doré, là, machin, parce que j'avais dû m'envoyer 6 Ironman dans l'année, tu vois, j'avais dû leur lâcher 6 000 euros, et je sais pas, donc moi, j'étais derrière dans mon sas, à ma vitesse, tu vois, et là, il y a quelqu'un qui m'attrape, de l'orga, qui m'attrape et qui me met devant, et boum, il sonne le départ, mais Lanzarote, c'est un mass start, quoi, et donc, je me retrouve devant, à courir sur la plage, et là, je me dis, il y a 2500 personnes derrière moi qui vont me rouler dessus, et ben, c'est ce qui s'est passé. Je suis arrivée au parc à vélo, j'étais tellement énervée, mais tellement énervée, j'avais envie de défoncer tout le monde. J'ai fait le meilleur vélo de ma catégorie, quoi. J'étais furieuse. Et en fait, cette rage que j'avais sur le vélo m'a fait remonter tout le monde. Et voilà, quoi. Donc, ouais, il ne faut pas se stresser. Elle a raison, ouais, il faut partir derrière. Et, enfin, en tout cas, au moins, non, en fait, pas derrière, mais au moins partir avec ta vitesse. Comme ça, au moins, l'effet de drafting va te faire avancer. Derrière, non, parce que tu vas perdre trop de temps. Mais il faut vraiment arriver à bien s'évaluer et partir avec les gens de ta vitesse. Et ça roule. C'est bien foutu, quand même, hein, ce rolling start.
Mais franchement, tu viens de dire que tu avais fait 6 Ironman dans l'année. Là, il y en a qui sont en train de se dire, mais comment tu fais ?
Bah, tu dépenses toutes tes économies. Ah, tu parles physiquement
Oh, mais les deux, parce qu'on se dit, ça semble, c'est vrai que...
Bon, après, quand tu fais ça, tu dépenses rien d'autre, hein, donc tu dépenses pas d'argent dans les cafés, au restaurant, tu fais rien d'autre. Hein. Et physiquement, je pense que quand j'étais à Doha, et je suis en train de recréer ce même environnement ici, Inch'Allah, quand j'étais à Doha... Si tu veux, même si j'ai un boulot de 40 heures par semaine, etc., à côté, j'ai tout qui est organisé, j'ai pas d'enfants, j'ai pas de mari, et donc je me repose. Je me repose et je vais pas faire des courses, acheter des habits, enfin tous les trucs qui te fatiguent, je fais pas ça. Donc si tu veux, je fais tout, et en tout cas l'année où j'ai fait ça, Tout était concentré sur mes Ironman, mes trucs, mes courses. Et donc, en fait, oui, tu as du temps. Imagine tout le temps que tu passes à aller chercher tes enfants, aller faire des courses au supermarché, aller... voilà. Donc, c'est juste une question différente d'employer son temps. Est-ce qu'aujourd'hui, je serais capable de refaire ça à 100%? Là, je suis en train de le faire pour l'UTMB, mais c'est sur un mois parce que je me suis rendu compte que je suis un peu à l'arrache sur la prépa du Thor. Et que là, c'est l'été à Riyad, il y a personne et tout, et donc je me remets dans ça faisait longtemps que j'avais pas, n'étais pas entraînée comme ça, ou voilà, je me lève, bam, je m'entraîne, je vais travailler, je fais ma sieste, je me réentraîne, j'ai commandé mes courses avant, j'ai fait mes repas le week-end pour bien manger, etc. Et je vois personne, je fais plus rien. Voilà. Donc ça, je suis à nouveau dans cette ambiance-là. C'est assez sympa. Après, faire ça toute ma vie, non, je suis pas, c'est pas mon métier d'être athlète non plus. Mais voilà, c'est juste pour pour arriver à faire le Tour des Géants sans trop galérer, quoi.
Ouais. Ouais, parce que donc, je m'entraîne. C'est un sacré défi quand même, le Tour.
Écoute, l'année dernière, la Swiss Peak s'est passée tout seul, mais vraiment. Je pense que c'est passé tout seul aussi parce que l'année dernière j'étais coincée en France et enfin ce qui était génial et on a quand même alors j'ai pas fait un seul footing de l'année hein, mais en revanche on a enchaîné un GR20 en 4 jours et demi ça a fait bien mal et une semaine avant la Swiss Peak on avait fait un UTMB en off à 150 heures. Donc j'avais fait des gros blocs si tu veux parce que finalement sur ces courses là c'est pas aller faire de la course à pied sur tapis, c'est faire des gros blocs de voilà, est-ce que t'es capable de rester sur tes pieds pendant 5 jours quoi, parce que ça fait quand même assez mal et du coup le Thor s'est passé tout seul et puis j'avais une stratégie de me dire voilà à chaque base de vie et là c'était là où c'était super parce qu'il y avait Steven qui m'assistait à chaque base de vie j'arrivais j'avais Steven qui me disait voilà t'as 10 minutes pour manger bam après la douche il m'avait préparé mes affaires j'allais à la douche le lit je dormais 2 heures donc si tu veux en 4 heures je repartais j'étais neuve. Quand t'es tout seul sur ce genre de truc t'arrives au ravito parce que moi j'ai déjà fait d'autres ultras même pas de cette distance tout seul parce qu'avant je savais même pas qu'on avait le droit à une assistance et là tu arrives au ravito tu regardes ce qu'il y a à manger tu commences à parler avec les gens tu vas chercher tes affaires après je prends une douche ou d'abord je bon mais là déjà il est passé il y avait une heure qui est passée tu vois donc en fait c'est vraiment important l'assistance c'est vraiment important surtout sur ces courses là et puis plus ça va évidemment plus ton cerveau il résonne voilà parce qu'avec le manque de sommeil ben le cerveau il fonctionne plus normalement donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui a un cerveau à ta place voilà. Donc ça c'est important
pour ceux qui n'ont pas en tête hein, donc la Swiss Peak c'était quoi
300 alors l'année 300, dernière oui. Elle était plus courte 320 et oui j'ai mis 107 ou 108 heures voilà au final je finis dans le premier tiers je crois des inscrits et top 10 tu vois des nanas donc bon on n'était pas beaucoup mais je finis très dignement donc alors que vraiment je l'ai pris super cool mais surtout c'était moi c'est une course que j'ai vraiment dans le cœur quoi c'est magique, c'est vraiment la plus belle course que j'ai jamais fait. Je pense que le format y est pour beaucoup parce que c'est un format qui me plaît. C'est pour ça que j'enchaîne sur le Thor. J'aurais bien aimé refaire la Swiss Peak, mais je pense que pareil, encore une fois, je n'ai pas envie de faire deux fois les mêmes choses. Mais un jour, je referai la Swiss Peak vite. Mais c'est, si tu veux, tu passes 87 heures dans le Valais par les crêtes en fait et t'es en hauteur comme ça pendant 4 jours et c'est rythmé par ces bases de vie tous les 150 km et c'est une course de point to point tu vois donc c'est vraiment tu pars d'en haut et tu arrives au lac et là quand tu vois le lac en bas mais tu t'effondres parce que t'as pas envie de rentrer, t'as pas envie que ce soit fini. T'es bien, t'es dans ta montagne, t'es dans ta bulle. Il y a quand même, il y a quelque chose qui te fait sortir de ta bulle progressivement. Heureusement qu'il y a eu ça. C'est qu'en fait, si tu veux, donc moi je faisais la 320, mais il y a aussi une 170, une 90 et une 50 qui sont sur le même parcours. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'à mi-course, d'un coup, t'as des gens qui te doublent hyper vite.
Oui.
Enfin, ouais. Et là, du coup, je commence à paniquer. Je dis à Steven, mais putain, tout le monde me double, tout le monde me double. Et là, tu comprends qu'en fait, c'est les nouveaux qui viennent d'arriver. Donc, tu as des nouveaux potes. Mais bon, tu les vois pas longtemps parce qu'ils vont vite. Et puis, plus ça va, plus tu as des gens qui vont vite. Évidemment, le 50, tu te doutes bien qu'il te roule, que tu vas pas tout à fait à la même vitesse au bout de 100 heures de course. Et puis, voilà, c'est bien parce qu'il t'encourage. Mais en fait, ce que je veux te dire, c'est que les deux premiers jours, tu es vraiment seul avec ces gens. Et petit à petit, heureusement, pour te, voilà, petit à petit, tu as des nouveaux qui arrivent. J'ai l'impression d'être dans un jeu vidéo, quoi. Je te jure, tu es tellement dans un état second. Tu as des nouveaux gens. Mais c'est vraiment une aventure. En fait, je rigole, tu sais à quoi je pense. En fait, donc. Quand tu pars dans Ravito la nuit, ça, tous les gens qui font, je sais pas, je connais pas ton audience, mais les gens qui font du trail, ça va vachement leur parler. Quand tu pars dans Ravito la nuit, il faut partir avec quelqu'un, partir avec des pieds, ouais. Parce que si tu déjà, il y a un, et notamment j'ai un souvenir d'un Ravito où je pars avec, il s'appelait Nicolas, Nicolas, si tu m'entends, et je pars avec Nicolas parce qu'en plus c'était un passage très dangereux, il neigeait, c'était glissant et c'était des trucs qu'on était à 3008, tu vois, enfin. Très dangereux, donc il faut jamais être tout seul, surtout à mi-course, t'es pas lucide et tout. Et voilà, et donc je me sympathise avec ce garçon qui me raconte sa vie, sa femme, sa fille, machin. Et ça, t'en as plein, toute la course, t'en as plein. Sauf qu'en fait, tu les vois pas, ces gens, parce qu'ils sont, il fait nuit, et ils sont devant ou derrière. Et en fait, tu sais pas à quoi ils ressemblent. J'arrive à l'arrivée de la course, je dis à Steven, mais j'ai vécu des choses, les gens de cette course sont extraordinaires, mais c'est mes amis pour la vie. Et on arrive à la remise des prix, là, il filait des trucs. Et tout le monde me disait bonjour, Périne, bravo, machin. Et Steven, il me dit, mais pourquoi tu ne dis pas bonjour? Je ne sais pas qui c'est. Il fait, mais si, c'est Nicolas, machin. Quoi? C'est Nicolas, le papa d'Anaïs, machin. Il me dit, mais Périne, c'est tous tes potes, là. C'est tous tes potes. Tu viens de croiser tous tes potes. Tu n'as dit bonjour à personne. Et moi, je ne savais pas qui c'était, quoi. Donc, je m'excuse auprès d'eux, Catherine et tout ça, parce que vraiment, je les aime plus que tout. Et je ne sais pas qui c'est physiquement, voilà. Parce que je les ai vus que la nuit. Mais voilà, donc ça m'a fait beaucoup rire parce que vraiment je revois Steven, mais c'est tous tes potes là. Lui il savait qui étaient les numéros, tu vois, il me disait il faut que tu parles, il savait parce que Steven il a déjà fait l'assistance de grands athlètes, donc ce qui est marrant parce que bon, moi je suis évidemment pas dans la tête de course, donc c'est assez marrant parce qu'il a quand même les réflexes et c'est important ces réflexes de rester dans des pieds, et ça c'est à n'importe quel niveau, mais donc lui il sait que telle personne, tu vois, il me dit là il faut pas que tu sois avec ces gens parce qu'ils sont plus lents que toi, donc il faut pas que tu sois avec eux parce que sinon tu vois, ça c'est des gens qui vont rester au cut-off et c'est dangereux parce que t'as pas envie de te rester, voilà, et c'est pas, d'abord c'est pas ton niveau et puis surtout t'as pas envie de stresser à la fin, je vais pas avoir le cut-off et tout, tu vois, donc lui il arrive à évaluer ma distance, les gens avec qui je peux aller, donc après il me regarde à quelle vitesse vont les gens et voilà, il me fait partir avec la personne, voilà, donc donc c'est assez marrant et c'est ça que j'aime beaucoup moi dans le trail, quoi, franchement. Ouais. Et puis cette distance là elle est incroyable, hein. Peut-être que je vais pas aimer le Thor, peut-être que la Swiss Peak c'était parce que c'était particulier aussi, qu'on avait des infrastructures, les bases de vie étaient incroyables, tu sais, c'est la Suisse, quoi. Tu manges des raclettes de luxe, tu es en haut des montagnes, tu as la confiture d'abricot de la grand-mère de machin, les refus sont propres, t'as un lit pour dormir. Bon, voilà, donc l'Italie, ça va être un peu plus. Voilà, mais en tout cas, j'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte et j'espère. Ouais, je pense que je recherche vraiment ce que j'ai vécu sur la Swiss Peaks. Ouais.
Ce qui est intéressant dans ce que tu racontes, c'est que c'est quand même super stratégique, ces distances-là. Et ce qu'on regarde, Steven, quand on regarde aussi comment il raconte Northscape, là. C'est extrêmement stratégique, ces grandes distances.
Northscape, je vais te dire un truc. Moi, j'ai tout suivi. Je connais. Bon, je ne connaissais pas une distance 4000, mais je connais ses cours. J'en ai fait des 1002, moi, j'en ai fait. Je connais la stratégie. J'en ai gagné. Je connais. Mais ce qui s'est passé sur Steven North Cape, la stratégie, la pression psychologique qui se... Parce que bon, là, pour le coup, tu parles... Là, moi, c'est le groupe de tête. Mmh. Donc, il y a une pression psychologique sur un groupe de tête. Ils ont tous pété au fur et à mesure. Et puis après, ben voilà, après, une fois qu'il n'y avait plus que Steven, mais avant qu'il n'y ait plus que Steven, avant, c'était des monstres devant qui ont pété. Et je pense que c'est très dur d'avoir quelqu'un qui est... Parce que Steven, il se tenait derrière Martine. Mmh. Je pense que ça, c'est horrible. Surtout un mec comme Steven qui te fait des 50 stories alors qu'ils n'arrivent même pas à toucher leur téléphone. Ben, moi, je fais une story sur mon vélo. Je suis dans le caniveau, tu vois. Ni en même temps, je ne sais pas, ils devaient écouter un podcast, parler à 55 personnes et faire 10 stories, tu vois. Mmh. Et en même temps, savoir, il n'y a pas une minute dans la course où Steven n'était pas dans le contrôle de où il est placé, etc. Mmh. Et il y aurait eu un mec devant, il serait allé le chercher, tu vois. Et c'est vraiment une stratégie avec le sommeil, avec la nutrition. Alors, en trail, tu n'as pas ça, parce qu'en trail, tu sais que tu peux manger. Mmh. En ultra, à vélo, tu ne sais pas où tu vas manger. La nuit, tu ne peux rien trouver. Tu ne sais pas où tu vas dormir. En trail, même si tu as sommeil entre deux bases de vie, bah, il suffit d'aller à la base de vie. Par contre, en trail, c'est embêtant. Si vraiment tu tombes de sommeil, ça s'est arrivé sur notre premier trail avec Steven. Si vraiment tu tombes de sommeil entre deux bases de vie, tu es dans la montagne, donc c'est compliqué de dormir. Mmh. À vélo, tu peux quand même dormir au bord de la route, c'est confortable. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas pareil. Mais... Donc oui, c'est très complexe de se nourrir. On dit toujours que Steven, il bouffe de la merde et tout, mais personne ne mange bien en ultra. Quelle est ta stratégie nutritionnelle sur un ultra où tu vas traverser 12 pays? Non, mais c'est d'arriver à manger n'importe quoi. Je mets n'importe quoi dans ma bouche, j'ai besoin de calories. Je sais pas, je vais pas la Norvège, là, à la fin, il y avait aucun bled. Et donc, bref, il y a une énorme stratégie et c'est une course au mental. Et là, c'est ça qui m'a le plus... Bien sûr, son effort m'a impressionné. Mais ce qui m'a le plus impressionné sur cette course, c'est le groupe de tête et la guerre qui se sont livrés et toute cette stratégie. J'ai trouvé ça incroyable. Donc ça, c'est la différence, on va dire, entre une course supportée et non supportée, quoi. C'est vrai que, tu vois, par exemple, avec Steven, on avait fait aussi pour essayer de comparer. Parce que je me dis, est-ce que j'ai fait des trucs à pied sans être supportive? Ben ouais, on a fait le... Parce que j'avais envie... J'ai vu cet été, il y avait une course sur le GR20, là. Et je me dis... Parce que GR20, on a pris une sacrée claque quand même. Hein, on l'a fait. Moi, j'étais sûre que c'était facile, tu vois. Et Steven, il me dit, c'est dur, je veux pas le faire et tout. Mais on était en Corse et je m'étais cassé le bras, donc je pouvais pas faire de vélo. Je dis, non, mais allez, j'ai le bras cassé, viens, on fait le GR20, tu vois. Et en fait, il n'y avait pas de ravito parce que les refuges ouvraient. Et donc, si tu veux, c'est dur d'être à pied. Et je me dis, et j'aimerais bien savoir quel niveau j'ai sur une course où je sais que je vais manger, je sais que je vais dormir quelque part. Et le GR20, on avait pris une bonne claque quand même, hein, parce qu'on ne pouvait pas dormir où on voulait. Il y avait quelques refuges où on a réussi à avoir à manger, mais on était quand même sinon en lyophilisé. Donc voilà. Bon, après, tu as des gens qui le font en 30 heures, hein, ils n'auraient pas besoin de tout ça. Mais, mais bon, voilà. C'est difficile une course non supportée parce que, et moi, j'aime beaucoup ça aussi, hein, parce que voilà, il y a plein de paramètres et c'est ce qui fait aussi que le meilleur n'est pas toujours le plus rapide. Et donc, c'est ça qui est intéressant.
Ouais, mais c'est vrai que c'est vraiment intéressant parce que ces stratégies nutritionnelles, de stratégies de sommeil, de la dépense énergétique est énorme pour arriver à faire autant de kilomètres, que ce soit à pied, en courant, etc. Et comment on gère la fatigue, comment on gère la nutrition, comment on arrive à ne pas trop dépenser non plus pour arriver finalement à pas trop s'épuiser, quoi.
Tu y arrives aussi parce que tu t'es planté plein de fois avant. Hein. Parce que je peux te dire que moi, le nombre de fois où je suis tombée par terre à côté de mon vélo, mais moi, l'expression de tomber de sommeil, elle existe, quoi. C'est tu tombes par terre, c'est-à-dire tu es en train de lire une carte et d'un coup, tu tombes. C'est comme quand tu t'endors au volant, tu vois, c'est la même histoire. Et t'endormir, et ça, c'est, il ne faut pas en arriver là, parce qu'en fait, quand on arrive là, ça veut dire que ça fait 3-4 heures que tu roules à 10 km/h de moins que ce que tu devrais rouler et que finalement, le temps que tu aurais gagné en faisant une power nap de 30 minutes, tu l'aurais gagné sur ton vélo après. Il y a aussi l'endroit où tu dors. Si tu dors dans un endroit humide, il ne faut surtout jamais s'arrêter. Il ne faut jamais s'arrêter au haut d'un col. Parce que là, en fait, tu vas dormir, ok, t'es mort, tu vas dormir, mais en fait, tu vas te réveiller, tu vas être encore plus mort parce que t'auras perdu avec le froid, t'auras une dépense énergétique. Et en fait, tout ça, tu le sais, bon, bah déjà parce que t'as des gens qui te l'ont dit, mais c'est surtout parce que toi-même, t'as vécu des situations atroces.
Oui, et puis... Ouais, et puis il faut le dire, c'est qu'il y a des fois où vous n'arrivez pas au bout. Enfin, toutes les aventures ne réussissent pas, j'ai envie de dire.
Oui. Bah, là, demande au premier qui a voulu faire sur la Norsecale, qui a voulu partir solo, il est tombé par terre, hein, à 2000 km. Pourtant, c'est un mec qui avait fait la trace en plein hiver, etc. Oui, nous, on touche tellement les limites qu'il y a des moments où. Mais bon, en général, quand les aventures, elles aboutissent pas, c'est soit la météo. C'est rare que ce soit pour des questions physiques. C'est très rare. Enfin, moi, ça m'est jamais arrivé. Non. Mais c'est très rare que ce soit pour ça. Mais en même temps, une aventure, là, je parle des trucs, pas des courses, mais des aventures. Une aventure, elle doit se préparer pas que physiquement. Donc, si tu veux, là, c'est pareil. En logistique, parfois, on fait des erreurs. Je vois. Bon, au Baïkal, il n'y avait pas de débat, dans le sens où on s'est retrouvé dans la neige. Mais je pense qu'on avait aussi fait des erreurs de matériel. Mais même avec un bon matériel, de toute façon, on était planté dedans, quoi. Donc, voilà. Mais, t'apprends tout le temps, quoi. En fait, t'es tout le temps en train d'apprendre. Et t'es tout le temps en train de faire des conneries, des choses que, ah, tiens, la prochaine fois, je ferai pas ça. Parce que, et tout le temps, à chaque course, à chaque truc, t'apprends un nouveau truc. Et ça, c'est bien.
Tu parles du Laibaïka, mais la Finlande, en mois de janvier, c'était...
Ah, mais là, j'ai arrêté. Ouais, mais là, j'étais blessée.
Ouais.
Donc, je suis blessée. J'ai commencé à avoir le genou doucement tordu. J'avais mal. Pareil, là, j'étais partie avec une poulka trop lourde, trop équipée. Et j'étais attirée, c'était en mars, et moi, maintenant, je rigole, tu sais, c'est ce que je me dis. Hein, je vais pas, c'est la première course de la saison, t'imagines, parce que moi, je me blesse jamais, et c'est rare que j'ai ce sentiment de là, je suis en train de me blesser, donc c'est quelque chose que j'aimais pas. Et tu sais, en fait, c'était deux boucles. Donc, en fait, en gros, j'abandonnais là, ou j'abandonnais pas. Et donc, sinon, après, tu peux pas rentrer, il y a aucun moyen d'entrer et tout. Donc là, je savais pas trop quoi faire. J'ai dit stop. On est en février, c'est ou mars, je sais plus. C'est la première course de la saison. Je vais pas me foutre un genou en l'air. J'ai plein de projets cette année. Ouais, t'as raison, les projets, il y a eu le Covid et tout. C'est là le bon moment pour être blessé. Hein. Mais bon, après, du coup, on est allé au Baïkal. Donc voilà. Donc, oui, si. Non, mais ça, c'est vrai que j'étais en train de me blesser, ouais. Mais bon, c'est rare. Hein.
Comment t'expliques d'ailleurs que tu te blesses pas? C'est.
Moi, je pense que déjà, je vais pas. Par exemple, là, mes projets, c'est de faire un marathon en moins de 3 heures. Je pense que là, j'ai commencé à avoir des douleurs, à mon avis. Hein, je sais pas. Je pense que là, en faisant ce type d'effort, il faudra que je fasse attention. Tu vois ce que je veux dire. Bon, après, je pense que je mange bien, je m'hydrate bien. J'ai un corps qui est quand même assez coopératif. Non, j'ai un corps quand même... je me rends compte parce que je vois pas mal de gens blessés. Et puis, tu sais, les gens, ils se blessent aussi parce que ça fait 40 ans qu'ils font des gens de mon âge, ça fait 40 ans qu'ils font du sport. Moi, j'ai fait de l'équitation jusqu'à 20 ans, certes, mais c'est pas déjà le même effort, c'est pas un sport, c'est un sport porté, tu vois. Et je suis pas cramée, quoi. J'ai commencé le sport il y a 6 ans. Donc, ça y joue aussi, quoi. Je suis pas cramée. Et j'ai été cramée après l'enduroman, hein, mais ça s'est manifesté comment? Ça s'est manifesté. Que je m'entraînais moins, mais pas que j'y arrivais plus. C'est juste que j'avais moins envie dans ma tête, quoi. Et je pense que ça, Marine aussi, elle l'a ressenti. On en a parlé. On en a parlé qu'un an après, parce que je crois qu'elle ne voulait pas se l'avouer non plus. Puis un jour, on en a discuté. Ah ouais, toi aussi. Mais c'est juste moins d'envie, quoi, peut-être. Ou différemment, quoi. Oui, non, je ne sais pas pourquoi je me blesse souvent. Je n'écoute tant rien.
Alors, dans les questions
c'est
que
des,
j'ai...
des petites choses quand même à vélo de temps en temps. Hein,
ouais. Et dans les questions que j'ai eues, il y a quelqu'un qui m'a dit « Ah, Perrine, c'est la fille du backing man. » T'en as fait quoi? Trois?
Oui, trois ou quatre. Bah, il y en a un où j'ai fini dans l'ambulance, mais ouais, quatre, ouais. Oui, je sais pas pourquoi il dit c'est la fille du Biking Man, parce que je pense que quand le Biking Man a commencé, moi j'étais au début du Biking Man et que Axel m'a mis beaucoup en avant parce que bah, y avait pas beaucoup de filles à l'époque. Et voilà.
Tu peux rappeler le concept un peu de l'épreuve pour ceux qui le connaissent pas?
C'est de l'ultra distance courte distance, enfin 1000 km, entre 1000 et 1002, en autonomie. Donc en fait, moi, je ne connaissais pas du tout l'ultra distance à vélo. Mmh. Et quand je me suis entraînée pour l'Enduroman, il y avait cette course qui était à Oman. Et Oman, c'était à côté du Qatar. Et moi, dans ma région, il n'y a jamais de course, tu vois, à part Dubaï, mais on ne pouvait plus aller à Dubaï pour des raisons encore politiques. Bon, bref. Et donc, je me dis, attends, c'est quoi 1000 km? Ah ouais, c'est beaucoup. Je dis, mais ça va être bien, ça. Ça va être bien pour m'entraîner pour l'Enduroman. Je vais couper en 3 jours et ça va me faire un peu comme, tu sais, les 3 épreuves. Parce qu'en fait, entre chaque épreuve, j'ai dormi 4 heures entre... Enfin, pas la deuxième fois, mais bon. Donc, je vais faire ça. Et après, du coup, j'en parle à une copine, une traileuse turque de Doha, et elle me dit « Ah ouais, on fait ça, trop bien !» Et je dis « Mais moi, je sais pas naviguer sur... je sais pas très bien naviguer à vélo, je sais pas trop comment ça marche. Et puis surtout, c'est quoi? C'est des gens qui font du vélo avec des sacoches, et s'il faut, ça va pas aller vite et tout, c'est pas une course. » Je savais pas ce que c'était, tu vois. Et puis on s'inscrit, et puis elle, évidemment, elle s'était pas entraînée trop à vélo, et évidemment, au bout de 500 bornes, au milieu du désert, j'ai laissé à l'hôpital, et elle avait le dos, la nuque et tout ça, complètement bloqué, elle pouvait plus du tout contrôler le vélo. Et là, elle me laisse, et je me dis, merde, c'est elle qui gérait toute la navigation. J'avais même pas de light et tout, enfin j'avais plus trop de light et tout, et puis je me dis bon, donc je la laisse dans un lieu sûr, hein, donc je m'inquiétais pas, elle était sûre de pouvoir rentrer, etc., elle allait quand même bien. Et là je pars sur mon vélo, donc c'était au début de la nuit, donc elle me met la trace sur le Garmin, donc et là je pars sur mon vélo et je vais à fond jusqu'à l'arrivée, et j'ai trouvé ça extraordinaire. J'ai trouvé ça fou parce que je trouvais ça génial de rouler tout seul la nuit. Au début, il y a eu la moitié du désert. Et après, tu remontais toute la côte. Donc, tu roulais, tu entendais les vagues et tout. Bon, après, la trace n'est pas très belle. C'est plutôt pas mal d'autoroutes. Mais toute la remontée, moi, comme c'était de nuit, là, c'est très calme. Il n'y avait pas trop de voitures. Et j'entendais les vagues. J'étais sur mon vélo et j'ai trouvé ça génial. Et là, je me suis dit, t'as pas besoin d'une course pour ça, forcément. Donc, c'est là où ça m'est venu à l'idée, moi, de faire des aventures à vélo toute seule. Et après, par ailleurs, j'ai aussi trouvé ça cool. J'ai commencé à avoir des gens qui me disaient, alors que j'étais engagée en duo dans la course, tu vois. Mais j'ai commencé à avoir des gens qui m'ont envoyé des textos. Ah, mais il y a machin truc, elle est devant, tu peux la doubler, elle est en train de dormir. Et là, je suis quoi? Mais attends, si elle dort, je la double et tout. Parce que je pensais qu'elle était plus rapide, tu vois. C'était une nana de Dubaï qui roule bien, quoi. Ah ouais, ben moi je vais pas dormir, alors du coup je vais la doubler. Et puis, et puis je me suis pris au jeu, quoi. Et je me suis pris au jeu et voilà, j'en ai refait et je trouvais ça sympa. Après, j'ai arrêté d'en faire pour plein de raisons parce que. C'était très. Comment te dire, l'organisateur m'a mis beaucoup de pression sur la médiatisation. Genre, tu t'inscris à la course, déjà, bon, ben, tu payes quand même, ça coûte, c'est pas gratuit, quoi. Et là, l'organisateur qui te dit, tu viens avec combien de médias? Bah, je sais pas, je viens avec zéro média, en fait, quoi. Tu vois, moi, j'ai payé ma course. C'était que ça. Et puis, tout le monde s'en mêle. Il y a plein d'histoires tout le temps. Il y a tout le temps plein d'histoires. Mais là, ça m'a saoulée. Et puis surtout, de mon côté, moi, je commençais à vouloir faire des aventures en solo, puisque grâce à ça, j'avais compris que je pouvais le faire toute seule. Parce qu'en fait, il faut quand même te dire, Mais bon, je vais en refaire des courses, je vais en refaire parce que je suis une compétitrice, tu vois, et ça va revenir, il faut juste que je trouve un autre format. Mais il faut quand même te dire que tu vois sur la Northscape, c'est incroyable, les Fort Café Steven, c'est hallucinant, quoi. Mais il y a quand même une différence entre une course où tu appuies sur un bouton, on sait où t'es, mmh. on vient te chercher, et la course, où, par exemple, nous, au Baïkal, on était seuls tout, quoi. On était au milieu du truc, et voilà, il peut tout arriver, et c'est ta vie, en fait, quoi, mmh. tu vois, c'est ta vie, t'es tout seul, enfin, tu dois te démerder. Et ça, c'est pas pareil, c'est pas du tout pareil. Et, alors, je dis pas qu'une course ultra, c'est pas dangereux, et que c'est pas... Alors là, quand je vois tout ce qu'a donné Steven et tout, je pense qu'il a donné autant que dans ses aventures. De toute façon, lui, il donne toujours tout, donc voilà. Et d'ailleurs, il y a une compétitrice qui est décédée pendant la course, qui a pris un accident de voiture. Donc, bien sûr que c'est très dangereux, l'ultra-distance à vélo. Ce que je veux juste te dire, c'est que... Il y a des moments quand tu fais des aventures, moi, quand je traverse du Rwanda à l'Ouganda, tu peux faire la race cross Rwanda, tu fais la même trace que moi j'ai fait. Mmh. Mais si tu es tout seul, tu as un côté vraiment, tu te fous la frousse parfois, tu vois, genre, tu es tout seul, toutes les décisions que tu prends, personne ne peut venir te chercher. Mmh. Bon, c'est vrai que moi maintenant, je me suis quand même équipée d'un satellite pour, au cas où, tu vois. Mais je ne suis pas dans un cadre de course. Et c'est aussi très intéressant de chercher toi-même ta trace, de trouver. Donc, il y a tout un travail de recherche qui est très compliqué, qui, je comprends aussi qu'il y a des gens qui n'ont pas envie parce que c'est relou de créer ta propre aventure. C'est très compliqué parce qu'il faut trouver ta trace. Souvent, tu te trompes. Donc c'est deux choses qui sont différentes, qu'il n'y a pas de, il y a pas de un c'est pas bien, l'autre c'est pas bien, c'est deux choses qui sont différentes et c'est deux choses qui m'intéressent, voilà. Mais l'aventure, alors bien sûr que c'est une aventure de faire une course ultra, mais voilà, c'est des choses différentes.
T'as un été copieux, non? Enfin, on a parlé un petit peu du Thor, etc. C'est quoi les prochaines échéances là pour toi?
Alors, donc le Thor et l'UTMB, là, ça c'est septembre. Après, donc là, moi, maintenant, je vois un peu plus à courte durée. Donc après, j'ai un projet ici de 2600 km toute la côte ouest en fait, et de faire le plus vite possible. L'idée c'est quoi? L'idée c'est de montrer un peu le pays, mais aussi de me challenger parce que c'est des terrains qui sont assez difficiles et c'est une route historique très connue, je veux pas trop non plus en dévoiler, et qui pourra aussi avoir d'autres étapes après, se faire sur un autre. La route est très longue, donc je peux la faire en plusieurs fois. D'ailleurs, je ne sais toujours pas si la course va s'arrêter juste à travers la Saoudi ou à traverser une frontière. Donc ça, c'est un projet perso. J'ai un projet aussi dans le désert. Donc ça, j'essaie de voir monter un truc. J'aimerais bien monter un truc avec Steven dans le désert ici, qui est un petit quarter, qui est le plus gros désert de dunes au monde en fait, qui est entre le Qatar. Le Yémen et l'Arabie, c'est magnifique, c'est incroyable. D'ailleurs, le Dakar va passer ici cette année. Mais il y a c'est un désert qui est très dangereux. Les dunes bougent beaucoup, il y a beaucoup de vent, donc tu peux te faire prendre. Après, il y a plein de trafic aussi avec les frontières. Donc, c'est très compliqué niveau logistique. C'est difficile parce qu'en fait, si tu veux, il y a des pays où c'est plus facile de faire des projets que d'autres. Mmh. Déjà parce qu'il y a des gens qui ont fait des projets. Là, ici, il n'y a pas grand monde qui a fait grand-chose. En plus, moi, je ne parle pas arabe. Donc, tout est assez compliqué. Mais il y a un projet dans le petit quarter qui va venir. Et puis l'année prochaine, je pense que je vais faire un ultra à vélo, je ne sais pas encore lequel. Voilà, bon, ça c'est dans les. Voilà, moi je vais pas plus loin que ça pour l'instant parce qu'avec tout ce qui se passe en ce moment, je vis un peu plus au jour le jour qu'avant. Alors qu'avant, tu pouvais regarder mon agenda, j'étais bookée pour les deux prochaines années. Maintenant, je vis différemment, ce qui est bien aussi.
J'étais en train de regarder ton compte Instagram en même temps, là, il y a des photos qui sont juste magnifiques. Et vraiment, tu vois, quand on parlait de désert, etc., tout à l'heure, quand tu vas attaquer un désert comme ça, tu dis il y a un désert super dur, etc., c'est quoi que tu vas rechercher dedans en fait?
Bah, moi, je suis toujours dans la recherche à me connecter à quelque chose, tu vois, à l'élément. C'est toujours ça. Ouais. Et alors là, ici, tu as toujours le bonus en plus, c'est que tu as toujours un gars qui sort du désert pour vivre un moment incroyable, soit parce qu'il a des abeilles là, tu sais pas pourquoi, soit parce qu'il a son chameau. Et voilà, et tu essaies de communiquer. Donc ça, c'est un peu le petit plus. Tu as l'impression d'être dans un livre. Et ouais, non, c'est... Tu sais, là, on était... Attends, quand c'est qu'on était là, il y a un mois... Ouais, juste avant là. Il y a un mois, j'étais. On est allé rouler le matin avec un copain, on a dormi là-bas. Puis tu sais, moi, je suis à Riyad là, jeudi soir, je prends ma voiture, je fais 70 bornes, je suis au milieu du désert, il n'y a que moi. Mmh. Je mets ma voiture, je prends un lit de camp, parce que moi, j'aime pas dormir par terre, j'ai peur des serpents. Je mets mon lit de camp et je vais rouler. Je fais mon barbecue là et puis je dors à la belle étoile. Je vois les étoiles, t'as la Voie lactée partout ici. Alors, quand t'es proche de Riyad, non, mais si tu vas un peu plus loin. Donc là, t'es sur ton lit de camp à 70 bornes de chez toi. T'as la Voie lactée, tu viens d'aller rouler, t'as mangé ta grillade ou ta salade. Et puis le lendemain, tu vas rouler et là, t'entends rien. C'est bizarre de rien entendre.
Oui.
Et voilà, et c'est fou. Et puis tu enroules là, comme ça, il y a des chemins. De temps en temps, tu vois des gens qui passent, un chameau, un animal, un renard, un serpent, un scorpion. Et ouais, ça, c'est dingue. Et ça, tu vois, au Qatar, il y avait le désert, mais c'était des dunes. Et donc, moi, je ne conduis pas trop dans les dunes et tout. Et puis, c'est un petit désert. Et ce n'était pas un désert où, à l'infini. En fait, c'était un désert où déjà, tu regardais, tu voyais l'Arabie Saoudite. Donc, déjà, tu savais qu'il avait une fin. Et là, ici, c'est des déserts sans fin, en fait. Et c'est vraiment puissant. C'est super puissant. Et j'aime bien ce mode de vie. Ouais, c'est vraiment, t'es tout le temps entouré de la nature, quoi. C'est vraiment très outdoor ici, en fait. Si t'as envie de vivre comme ça, tu peux, en tout cas, t'es pas obligé.
Et j'avais une photo quand même, je pouvais te poser la question, parce que t'arrives devant un panneau, c'est marqué fin de la route.
Ah ouais, bah après, il y a quoi derrière? Le Wadi. Le Wadi, donc c'est, tu rentres dans. Donc le Wadi, c'est un canyon. Ouais. Là, tu rentres dans un canyon et enfin, c'est magnifique, enfin, c'est vraiment ouais. Et là, c'est du sable, donc c'était assez galère avec le vélo. Et dans le Wadi, bah, t'as des gens qui cultivent des mangues après, mais c'est des nomades, enfin, c'est des gens qui vivent là. Il n'y a pas de maison, en fait, quoi. Il y a des petites cabanes, c'est très pauvre, hein, comme pays quand même, hein. Et puis toi, pareil, t'as toujours quelqu'un qui sort de nulle part, de quelque part. Et ouais, ce canyon-là, il est magnifique. La Wadi Dissa, c'est vraiment un endroit qui est magique. Ils vont développer au tourisme un jour, mais pour l'instant, leurs projets sont très... enfin, c'est bien et pas bien à la fois. C'est des projets haut de gamme qui vont vraiment se fondre dans l'environnement. Donc, c'est pas bien parce que ça ne sera pas accessible à tous. Mais c'est bien aussi parce que c'est vraiment ils sont dans la, enfin, en tout cas sur ce lieu là dans la protection, ils veulent vraiment conserver leur patrimoine, parce qu'en plus, si tu veux, t'as des fouilles archéologiques partout, c'est un musée à ciel ouvert. Il y a d'ailleurs beaucoup d'équipes françaises qui travaillent là-bas à temps plein. C'est fou de te dire qu'il y a plus de trucs qu'en Égypte ou à Petra là-bas, et que personne n'a jamais encore fouillé là-bas. On est en 2021 et personne n'a jamais fouillé là-bas. Les archéologues français, ils sont ici. Personne n'y allait avant, c'était fermé, tu vois. Il n'y avait pas de visa tour, tu pouvais pas avant. Maintenant, tu peux.
J'ai une dernière question à te poser par rapport au Norseman, parce que je l'ai vu sur ton profil, en fait, le Norseman. C'est quoi l'histoire avec le Norseman pour toi?
Ah, c'est le Norseman, et ben, je faisais, tu vois, j'avais juste commencé le triathlon et j'ai vu l'intérieur sport, hein, comme beaucoup de gens.
Ouais.
J'ai vu l'intérieur sport, j'ai dit, ah, c'est génial ça. Ben, c'était juste après Nice, donc mon premier, tu vois, mon premier triathlon Nice. Et je vois l'intérieur sport, je fais, ah, ça a l'air trop bien. En plus, bon, moi, la Norvège, je trouve ça trop beau et tout. Et puis, je me rends compte que c'est un tirage au sort, c'est compliqué. Et je me dis, ah, mais je vais m'inscrire au tirage au sort. c'est la fille qui fait du vélo depuis 6 mois, il n'y a aucun doute. Et en fait, comme j'étais résidente Qatar et une femme, j'en sais rien, j'ai eu le tirage au sort. J'ai gagné. Mmh. J'ai gagné beaucoup de tirages au sort en étant résidente ici, donc, parce qu'ils aiment bien les pays sous-représentés, tu sais. Ouais. Et donc voilà, et puis le plus simplement du monde, avec mon papa, ma sœur et ma meilleure amie qui m'ont assisté. On a passé quelques temps là-bas pour faire la course, et c'était super, quoi. C'était vraiment super. Ouais, c'est une chouette course qui n'est pas du tout aussi extrême que... Mais ça fait peur, là. Tu montes dans le bateau, tu sautes du bateau. Quand tu montes dans le bateau, là, c'est trop bien. T'as trop peur au début. Et après, il fait un peu froid et tout, mais ça va, c'est pas non plus d'abord. Mais oui, c'est vrai que tu montes sur le bateau, sur le vélo, t'es tout gelé. Et puis, après, c'est assez plat. Il y a beaucoup moins de dénivelé que ce que j'imaginais. Mais c'est trop beau. C'est trop beau. Et puis, en fait, si tu veux, c'est magique pour deux raisons. La première, c'est parce que tu fais ça avec ta famille. En fait, c'est la seule course de triathlon où t'es assisté, quoi. Enfin, c'est une erreur. Et donc, déjà, ça décuple. C'est bien d'être dans le partage, enfin, sur les courses aussi, quoi. Donc, ça, c'est chouette. Et il y a ce côté, tu as envie d'avoir le t-shirt noir. Et puis, quand ça fait comme moi, qu'un an que tu fais du vélo et que tu as des gens, ça fait 20 ans qu'ils essaient d'avoir le tirage au sort du Northman, ils ont préparé ça toute leur vie, du coup, tu te dis, est-ce que moi, je vais l'avoir, quoi. Donc ça c'était un peu stressant, j'ai envie de dire, parce que sur tout le vélo, surtout que moi je devais être dans les 140 je pense, bon j'en avais 12 derrière, ouais non peut-être 130, un truc comme ça, mais bon tu sais pas trop quoi, j'étais pas dans les 80 premiers quoi, donc ça c'est vrai que c'est un petit stress en plus, de suivre un peu où en sont les autres derrière et tout ça, pour être sûr d'avoir un t-shirt noir. Et d'aller en haut de la montagne. Et ouais, c'est beau, c'est un beau parcours, c'est une belle course. Et je félicite les organisateurs d'être restés sur ce format-là. Et après, c'est vrai que c'est triste parce que c'est compliqué d'accès avec ce tirage au sort qui est très restrictif et tout. Mais ils ne l'ont jamais agrandi, ils n'en ont jamais fait une usine, ils ont respecté. Leur idéologie de course et ça c'est chouette, malheureusement c'est vrai que du coup ça laisse beaucoup de gens sur le carreau.
Oui, parce que c'est une course, il y a 250 personnes au départ seulement, hein, ils agrandissent pas. C'est vrai que comparé à l'UTMB où on a l'impression que ça grossit, qu'il y a toujours de plus en plus de monde sur ces courses là c'est vrai qu'eux ils restent sur ce format 250 au départ quoi.
Je crois que c'est 3-4 personnes qui ont des métiers à côté et ils ont cet événement et ils en ont créé un mythe, hein, parce qu'il y a quand même un mythe. Hein. Surtout que maintenant, l'eau n'est plus froide. Enfin, je dis que c'est un mythe, mais moi, j'ai eu trop peur. Hein, attends. Je me suis éclatée, c'était chouette, c'était vraiment chouette. C'est beau, c'est une course à faire pour ceux qui ont la chance de tirer au sort. Enfin, c'est chouette, quoi. Vraiment.
On va rester sur ces chouettes mots parce que en plus je te posais la question du Northman parce que j'ai eu un invité dont il en rêve, tu sais, de se dire ça fait partie des courses qu'on a, etc. D'autres ils veulent faire l'Otilo. D'ailleurs je t'ai pas demandé, le swimrun c'est pas ton truc?
Alors c'est marrant que t'en parles parce que avant-hier j'ai parlé à une nana de Montpellier, bref, qui me dit je suis qualifiée pour Otilo et je lui dis il faut qu'on le fasse avec Steven, mais bon, on va vraiment s'engueuler là, ça va être la catastrophe, quoi. Là. Et du coup, j'ai regardé pour faire Malte. Je me dis, mais il faut qu'on en fasse un où il n'y a pas trop de niveau pour être sûr d'être qualifié, quoi. En fait, je ne sais pas quel niveau on a, tu vois. Ouais. J'en ai aucune idée de quel niveau on a, si on est bon ou si on n'est pas bon. C'est comme quand on a fait notre premier 140 km en trail. Moi, j'arrive et je lui dis. Ah, on va le rentrer en 23 heures, je pense. Mais même le premier de la course, il n'avait pas mis 23 heures. Donc là, je pense qu'on arrive à peu près dans le même état d'esprit. Donc normalement, je suis en train de le motiver pour qu'on fasse Malte en novembre. Mais on va arriver en mode, on connaît rien ce truc, on ne sait pas ce que c'est, mais nous, on veut juste aller à Otilo, donc il faut qu'on se qualifie. Donc il faut qu'on les double les gens devant là. Je sais même pas comment ça marche en fait. Il faut que je m'en occupe. Donc oui, ça m'intéresse. Ouais.
Ouais, et alors tu vois, parce qu'on est sur Steven quand même, parce que j'ai deux personnes qui m'ont posé la même question, m'ont dit, non mais en vrai Steven, il n'est pas trop relou dans les situations comme ça, sur ce genre d'aventure, sur ce genre de choses?
Ben moi, il est relou parce qu'il est comme ça, puis il aime bien me charrier et le montrer en story et tout ça, mais moi je trouve ça formidable de faire ça à deux parce que on partage, etc. Et puis on s'aide aussi parce qu'on est dans des situations difficiles et que parfois voilà, on a vraiment besoin d'un coup de l'un et l'autre. On a des expériences qui sont différentes, évidemment lui sur un vélo il sait tout faire et ça c'est important pour moi, il m'apprend énormément sur le vélo quoi. Moi je sais pas faire de vélo, je fais du vélo depuis 5 ans, lui il en fait depuis qu'il est né quoi. Et ça c'est super, et puis moi après j'apporte peut-être d'autres choses aussi, j'ai quand même une énorme expérience de voyage, etc. Donc voilà, donc là j'ai dit au Thilo, parce que Stéphane il a un peu la même philosophie que moi, il y a des courses mythiques. Mmh. C'est pas, ça va être un peu mal vu, genre en mode je veux cocher des cases ou remplir une wish list, mais c'est pas vraiment ça. Mais enfin si, quelque part, bon, peu importe. Mais il y a des courses mythiques que j'ai envie de faire, évidemment. Et je pense qu'au Tino, dans des mauvaises conditions, ça doit être génial. Et franchement, c'est ouais, là il y a moyen de rigoler. Et je pense que c'est quelque chose à faire. Et il y en a encore d'autres sur la liste. J'ai rien qui me vient en tête là, mais ouais. Donc c'est marrant. On en a parlé il y a deux jours. C'est rigolo.
D'accord. Donc je vais retenir cette phrase. Otilo avec des mauvaises conditions, ça doit être génial. Et là, les gens, ils sont en train de réfléchir à cette phrase, tu sais. On va laisser réfléchir là-dessus, hein, parce qu'on va terminer là-dessus, mais ils sont en train de réfléchir, tu sais, à ce truc-là en se disant, ouais, d'accord, Otilo par des mauvaises conditions, ça doit être génial.
Non, mais j'aime bien la mer avec des grosses vagues et tout. Et puis comme ça, Steven, il aura peur, j'espère. Parce que lui non plus, c'est pas le champion de natation. Hein. En fait, il est meilleur que moi. La dernière fois, il m'a doublé. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait un truc à Marseille, là. Oh, j'avais pas du tout envie de nager. Je me suis pris une méduse au début. J'avais pas du tout envie de nager. Je voulais arrêter. Et lui, il est parti comme un fou parce qu'il s'est dit, elle peut pas me doubler, c'est pas possible. Donc, il est arrivé 20 minutes avant moi. Il était trop fier. Donc, voilà. Donc, il faut une mer bien démontée pour que je puisse... En plus, il a le mal de mer, donc comme ça, il sera malade, parce que je ne sais pas s'il connaît ça, de nager en ayant le mal de mer. Parce que ça, moi, je n'ai pas le mal de mer, mais je l'ai vu dans des prépas pour la Manche et tout, des gens qui vomissaient en nageant. Hein. Ouais. Donc ça peut être intéressant.
Voilà, alors on a un petit peu comme ça le cadre, c'est trop drôle. Et puis en plus, je vais te dire, c'est que Steven, on avait fixé aussi qu'on enregistre justement pour parler de la Namibie, du North Cape. Donc après, je taquinerai aussi de l'autre sens, ça sera trop drôle.
Ah oui, tu peux y aller.
En tout cas, c'est vrai que suivre, et puis moi, enfin, pour dire que Steven sait tout faire sur un vélo. Les stories qu'il a fait sur la course en roulant à toute vitesse, quand on regarde la vitesse, quand il roule, quand il rattrape les gamins, qu'il leur fait un coucou, les vélos cargo, les trucs comme ça et tout. C'est, enfin, moi, c'était mon feuilleton de l'été. Et tout comme un petit peu les aventures, non, c'est les feuilletons comme ça, quoi.
C'est très dur, hein. Franchement, c'est même pas que des skills techniques, c'est aussi en même temps, parce qu'en même temps, il pense à 10 000 trucs, il est. Et voilà, et comme il s'est un peu énervé là pour d'autres raisons sur le truc, mais il a raison de dire que moi, ça fait 30 ans que je fais du vélo, je suis née sur un vélo, et ça, cette expérience-là, personne ne l'a. Mmh. Et voilà, et donc moi, j'apprends beaucoup quoi, de lui, et ça, c'est chouette. Quoi. Voilà. Mais j'aime bien aussi faire des trails avec lui parce que j'ai un peu plus le niveau. Quoi. Et c'est pour ça que j'aimerais bien aussi aller nager en mer avec lui, avec beaucoup de vagues pendant qu'il vomit, comme ça, au moins. Voilà.
Eh bien, écoute, ensuite, en tout cas, on va suivre ces aventures-là. Alors, pour te suivre, Instagram ?
Oui, mais moi, j'ai que Instagram. Hein. J'ai toujours pas compris comment marche Snapchat. Il faudra peut-être un jour je m'y mette pour les gens ici. Mais non, je suis pas très Facebook non plus.
Donc, Perrine Fage sur Instagram, tout attaché. Comme ça, on peut on peut suivre, on peut regarder. Il y a des magnifiques photos. Ouais. Il y a quelqu'un qui m'a dit, elle a l'air tellement heureuse, elle a un magnifique sourire. Et c'est vrai, il y a des photos où on te voit avec un grand sourire et autres. Ça fait voyager. Il y a des magnifiques couleurs. Il y a des choses. Moi, j'imaginais pas, franchement, certains paysages. Je te le dis, hein, là, Théo. À un moment donné, t'es en haut d'un gros, gros rocher. Enfin, de, je sais même pas comment on appelle ça, un grand pic là, où on découvre des choses. Moi, j'imaginais pas que ça ressemblait à ça. Et puis, en même temps, après, y a l'alternance du chaud et du froid. Il y a des photos où il était en plein désert, ouais. Des photos en pleine neige. D'ailleurs. Avec Steven, vous avez réussi à faire une reco du Gravelman en pleine neige. Je pense que c'est le week-end en Auvergne. Vous avez eu le plus de neige, tu vois. Moi, je suis en Auvergne.
Ah oui.
Et je vous ai vu rouler ce week-end-là. Je me suis dit, mais ils ont pris le week-end où il y a eu vraiment le plus de neige de tous. Vous êtes retrouvés, il y a des photos avec des murs de neige, etc. Je me suis dit, mais c'est vraiment, ils ont choisi leur week-end.
C'était chouette. Hein. C'était chouette. On est allé monter le... Ouais, c'était vraiment chouette. Moi, j'adore l'Auvergne. Hein. C'est... Si je rentre en France, c'est où je vais m'installer, même si j'habite à Montpellier. Mais on est vraiment, et Steven aussi, c'est vraiment l'Auvergne. Enfin, des gros, gros fans. Et oui, c'est vrai qu'on a, on a fait le Ventoux de neige aussi, enneigé. Ça, j'ai trouvé ça chouette. Non, mais j'aime bien les deux, moi. J'aime bien le froid et le chaud.
Eh bien, en tout cas, merci beaucoup pour cette discussion. Je me suis régalé. Je sais que les auditeurs ont adoré. C'était vraiment génial. Et puis, on aurait pu parler plein de choses parce que je vois aussi, tu as des photos du Kilimandjaro dont j'ai parlé avec une autre invitée il n'y a pas très longtemps, qui est aussi une sacrée aventure, surtout qu'en plus, enfin, à vélo, quoi.
Ouais, non, ça c'est moi, je suis pas allée, je suis allée au petit sommet à vélo, mais après, quand on a fait, après, on a fait la course avec Steven. À pied contre le vélo. C'était une sacrée aventure parce qu'en fait donc on s'est acclimaté ensemble jusqu'au presque au sommet à vélo et après on est redescendu à l'entrée du parc et on est monté d'un coup en fait et donc moi en courant et Steven à vélo pour se retrouver au final quasiment ensemble sur la dernière partie de l'ascension et là bah là, il se passe un truc de montagne. Hein. Là, je dis à Steven, déjà, je vois il y avait un guide qui n'arrivait pas du tout à suivre et tout. Bon, bref, je le vois s'effondrer par terre 2-3 fois. Ok. Et moi, je dis à Steven, je ne comprends pas, j'ai de la neige qui rentre dans mon bonnet et tout. C'est bizarre. C'est de la grêle qui rentre dans mon bonnet, mais il n'y a pas de grêle. Et là, il me dit, t'es con, quoi. En fait, donc, effectivement, il y avait un orage. Le guide s'était fait foudroyer, donc. Donc moi, quand je comprends ça, je dis, mais j'ai des bâtons, il faut que je les enlève. Je dis, mais ils sont en carbone. Et je voulais, moi, j'avais pas envie d'aller au sommet. Je dis, mais on va pas au sommet là et tout. Et en fait, il y avait aucun endroit pour s'abriter. Et là, c'est des décisions qu'il faut prendre en un quart de seconde. Et moi, en fait, toute seule, je suis capable de prendre des décisions et de beaucoup de choses. Mais c'est vrai que quand je suis avec Steven, je me repose beaucoup sur lui. Et je suis incapable de prendre une décision déjà pour nous deux. Et moi, je me repose sur lui. Donc là, il me dit en gros, soit tu me suis, soit tu descends. Et je savais qu'il n'y avait rien pour s'abriter avant de loin. Et par contre, je savais qu'on était en train de se mettre en danger, mais qu'il n'y avait aucune solution. Et là, on a marché tête baissée. Et moi, ça faisait zzzz dans ma tête. J'avais des petits crampons sur mes chaussures en plus. Donc... je sentais le truc et là je priais pour que ça retombe pas quoi. Et on avait voilà on a marché quasiment ouais on se mettait vraiment en position en boule là et puis arrivé au sommet ça s'est levé quoi. Et on avait vraiment du cul. Mais ouais c'était bien stressant parce que voilà tu vois ça c'est encore des aventures. Là il se passe ça t'es sur une course la course elle est annulée quoi.
Ouais.
T'es tout seul, ben, si tu descends, t'as quand même l'orage. En plus, avec des rochers, tu sais que ça tombe proche des rochers. Mais tu peux, c'est pas non plus des rochers où tu peux t'abriter. T'avances au sommet, tu sais que t'es exposé jusqu'au bout. Donc voilà, en fait, et là, t'as 2 secondes pour prendre la décision, sachant que depuis 10 heures, tu cours. Et que t'es quand même à 5000 je sais pas combien et donc voilà et là il faut prendre des décisions et voilà et se mettre en danger mais dans tous les cas on était en danger de toute façon et voilà et puis il faut faire des choix c'est comme ça donc on l'a fait, on est arrivé au sommet main dans la main.
Eh ben, écoute, c'est vrai que je vous souhaite de très belles aventures à toi comme à lui. Moi, j'ai hâte de voir franchement ce que vous arrivez à faire sur les qualifications au Tilo, sur comment vous allez vivre ça. Et puis, bien entendu, avant, tu as un programme. On le rappelle, il y a quand même beaucoup, beaucoup de kilométrage. On va suivre ça avec beaucoup d'attention, un peu fan, tu sais, et j'ai plein de gens qui m'ont envoyé des messages, ils sont vraiment fans parce qu'ils sont impressionnés. Et puis, c'est vrai, quand tu dis je ne savais pas faire de vélo il n'y a pas si longtemps que ça, je ne faisais pas de sport il n'y a pas si longtemps que ça, etc. C'est aussi ça qui est impressionnant dans ton parcours, c'est de voir à quelle vitesse tu arrives à enchaîner, tu as réussi à faire des choses. Il y a beaucoup de gens, et je regarde des messages qui disent finalement, tu donnes l'impression qu'il y a plein de choses qui sont possibles de faire, quoi.
Ah oui, non, ça c'est sûr. Après, je m'en donne aussi les moyens, hein. Mais du coup, après, c'est à chacun de faire ses choix de vie. Ça passe à quoi? Il y a des choses qui passent à l'as, hein. Tu peux pas tout faire, tu peux pas tout avoir dans la vie. Par contre, tu peux décider de ce que tu veux à un moment, et puis ça peut évoluer aussi. Mais c'est vrai que c'est, voilà, faut s'en donner les moyens, ça c'est sûr. mais ouais, c'est, moi je vibre en tout cas dans tout ce que je fais, quoi. Tout ce que je fais, c'est, et je m'émerveille à chaque fois, ça, c'est fou, quoi. À chaque fois, je me dis, mais c'est pas possible, quoi. T'as encore trouvé un truc de fou, et même moi, je m'en remets pas. Non, même moi, je m'en remets pas. Je me dis, mais c'est pas possible. J'ai vraiment de la chance, quoi.
Ben en tout cas, merci. On va finir sur ce chouette mot, sur ce grand sourire. Merci à toi, vraiment beaucoup. J'ai adoré ce rendez-vous avec toi. Je te souhaite des belles continuations. On va suivre tout ça, comme je le disais. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité. Et je ne sais pas encore qui c'est. On va voir comment ça s'enchaîne les choses. Mais en tout cas, je sais qu'on va partir dans de belles aventures. Et en tout cas, encore merci, Perrine, pour tous ces récits d'aventures. Je ne sais pas si un jour tu écriras un livre avec toutes ces aventures, mais il y aurait de sacrés trucs, hein, à raconter.
Ouais. Bah, merci beaucoup, merci de m'avoir reçu.
Merci. Salut. À toi. Ciao, ciao. Bon, c'est encore moi. J'ai un dernier petit mot à vous dire avant de vous laisser écouter un autre épisode de podcast. Si vous avez apprécié cet épisode, je vous invite à vous abonner, bien entendu, au podcast. Vous pouvez le faire sur Spotify, Apple Podcasts et tous les lecteurs de podcasts. Mais aussi, si vous le voulez, à laisser une petite note 5 étoiles sur Apple Podcasts. Vous savez que ça aidera le podcast à se faire découvrir et à permettre à plein de gens de découvrir aussi les vertus du mouvement. Allez, ce coup-là, je vous laisse et je vous souhaite à tous une très belle journée.
When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia. Movement that inspires.
Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.